بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مشايخ خير مشايخ سوء الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, notre Maître, qui nous comble de ses ni'am, de ses bienfaits. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Si l'être humain essayait, de d'énumérer, de compter, de comptabiliser tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés, il serait impossible pour un homme d'énumérer, de passer en revue l'intégralité de ce qu'Allah nous a accordé. Parce que si on arrive à énoncer chaque bienfait, on serait parmi les ingrats. Parce qu'on aura oublié plus de bienfaits qu'on a pu citer. Et parmi ces bienfaits qu'Allah Rabbul Izzah nous a accordés, le plus grand des ni'ma, le plus grand des bienfaits, c'est al-iman, la foi. Ikhwan ya khawati fillah, chers frères et sœurs en islam, croire en Allah, c'est avoir la promesse que chacune de nos bonnes actions sera récompensée. Il y a des personnes qui font de très bonnes choses de leur vie, mais comme il n'y a pas le socle spirituel, il n'y a pas la foi, les actions n'atteignent pas leur objectif dans le akhira. De le dunya, oui, mais de le akhira, malheureusement, non. Alors que nous, en tant que mu'min, nous prions, nous jeûnons, nous lisons le Coran, on va dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, chaque bonne action trouvera hasanat, ses récompenses, et c'est là la promesse d'Allah de nous récompenser et même de nous donner beaucoup plus que nous le méritons. Et ça, c'est un cadeau de la part d'Allah qui est spécifique pour cette umma. Al-hasanatu bi ashri amthaliha. Vous dites une fois subhanallah, dites subhanallah. Allah Rabbul Izzah vous a accordé au minimum 10 fois la récompense de ce qu'on vient de dire. Et ça, c'est la karam d'Allah. Et ça, le shart, c'est al-iman. Deuxième point à retenir concernant la foi. Croire en Allah, c'est avoir la garantie. On a besoin de connaître c'est quoi les garanties de la foi. Depuis qu'on est, alhamdulillah, soit on est né dans la religion, soit Allah Rabbul Izzah nous y a emmené dans notre cheminement vers lui durant notre vie. Et dans les deux cas de figure, on aimerait savoir qu'est-ce qu'Allah m'accorde avec ses sacrifices, ce Ramadan, ses prières, cet investissement pour la religion, l'éloignement des harams, avoir une vie qui est parfois différente de celle de monsieur tout le monde. Qu'est-ce que j'obtiens? Cette foi, ce iman. On ne parle pas encore du paradis, on parle de l'apport personnel de la foi. Donc on a dit, les récompenses, c'est acquis, inshallah. Deuxième fawaïd, deuxième apport immédiat de la foi, quand tu crois en Allah, ben, tu as la garantie que les péchés seront, inshallah, pardonnés par Allah, même s'ils sont plus nombreux que... Il y a plusieurs métaphores. La métaphore qu'on a retenue, même s'ils sont plus nombreux que l'écume des mers. Dans un hadith d'Ibn Abbas, on va pas citer le hadith en arabe, ça va être trop long. Allah Azza wa Jalla, hadith Qudsi, dit « Ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi. » N'est-ce pas là notre cas durant ce mois béni? Est-ce que nous ne levons pas nos mains tous les matins pour le suhur? Au moment de rompre le jeûne, après chaque prière, on ne demande pas à Allah? Par le Seigneur de la Kaaba, il n'y a pas un croyant de ce dunya qui passe un mois de Ramadan sans lever ses mains. Et quand tu lèves tes mains, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quand tu lèves tes mains, est-ce que tu récites ton sabak? Est-ce que tu lis un kaliment? Quand tu lèves tes mains, tu as deux. Qu'est-ce qui fait que tu t'adresses à Allah? Dans ton cœur, il y a deux. De l'espoir, amal. Il y a de l'espoir. Tu t'adresses à celui que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, à celui qui ne peut pas, qui ne te répond pas. Mais tu es persuadé, tu as cette conviction qu'Allah Azza wa Jal, à ce moment, il écoute tes paroles et ce que tu n'as pas réussi à prononcer parce que notre élocution est très souvent limitée. Ce qu'il y a de ton cœur au fond, tes peines, tes tristesses, tes rêves, ton espoir, tout ce qui anime ta vie, Allah Azza wa Jal le voit, il scrute ton cœur et Allah est capable de te l'apporter. Celui qui lève ses mains, c'est qu'il a de l'espoir, oui ou non, sans le moindre doute. Au fils de Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Hajib, ce hadith Qudsi, qui montre là le pardon d'Allah. Quoi que tu aies fait, c'est-à-dire, bidoun hudoud, pas de limite. Est-ce qu'un homme peut pardonner à son épouse en disant « Je te pardonne quoi que tu aies fait ?» Abadan wallah. Est-ce qu'un patron peut pardonner à son employé modèle, dit « Quoi que tu aies fait, je te pardonne jamais ?» Dans la relation humaine, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Cela n'est possible que dans la relation entre le serviteur et son seigneur. « Quoi que tu aies fait, je t'accorde tant que tu m'invoques. » et que tu espères en moi, je te pardonnerai quoi que tu aies fait et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire, pour Allah, c'est rien ça. C'est rien. Et le terme du hadith, Ibn Adam, innaka ma da'outani wa raja'outani, ghafartu laka ma'a ma kana fika, walau, le hadith est un peu long, il dit, même si les termes sont tout juste magnifiques, ça nous fait rêver, et même walau laqitani mil al-ardi khataya, même si tu viens à moi avec la terre remplie de péchés, c'est-à-dire que tu accomplis tellement de péchés que si on cumulait les péchés de ce dunya, ça remplissait de l'est à l'ouest, du nord au sud, mil al-ardi khataya, si tu te présentes à moi avec l'équivalent de ce dunya en péché, si tes péchés je te rencontre avec autant de pardon, autant de maghfira que peut contenir tout l'espace de cette terre. Malam tushrikbi, tant que tu ne m'associes rien. Walau balaghta, walau balaghat khataayaka 'anana as-sama, même si tes péchés atteignaient le seuil, le sommet du ciel, thumma astaghfartani ghafartu lak, et que tu viens vers moi avec sincérité, tu demandes pardon, je t'accorde le pardon. Ça c'est un hadith qudsi 'azim, 'ajib, qui montre le pardon d'Allah Azza wa Jall. Et dans ce mois béni, cet instant présent, ça fait partie des moments où Allah Azza wa Jall pardonne les péchés de l'être humain durant le mois de Ramadan. Chaque mu'min doit vivre avec l'espoir. Il n'est permis à aucune personne d'avoir un doute sur la générosité et la clémence d'Allah. Il n'est permis à personne de porter un jugement sur son prochain. De se dire que lui, il fait semblant. Lui, il vient à la mosquée dans le mois de Ramadan. Lui, c'est un brigand, mais là, il fait comme ça parce que... Abatan wallah, ne doute jamais de la clémence d'Allah. Vous savez, si on a... On parvient à développer ce chufnuvon nibillah, cette pensée positive d'Allah, ben nous deviendrions les meilleurs des croyants. Ikhwani akhawati fillah, croire en Allah, c'est avoir la promesse du créateur du paradis et de l'enfer d'accéder un jour de le jannah et d'être protégé de l'enfer. Ça c'est wa'adullah pour les croyants. Croire en Allah, c'est faire partie des gens qui peuvent espérer avoir une place sous l'ombre de son trône le jour de Qiyam, parmi min al-fa'izin. Donc, nous disons tous, Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Qu'Allah Azza wa Jal garde cet iman, cette foi vivante de notre cœur, que jamais nous ne la perdions, que jamais cette foi ne faiblit, et qu'elle reste avec nous jusqu'au moment où nous allons rencontrer Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que nous jeûnons le mois de Ramadan. C'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous lisons le Coran, que nous accomplissons le jeûne, le hajj et ainsi de suite, hatta tazdad, afin de garder cette foi et que ce iman augmente. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, pour parler de la religion d'Allah, pour apprendre un peu plus du dîn d'Allah Azza wa Jal, pour mieux mettre en pratique. Et plus on connaît la religion, plus on met en pratique, plus on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, mes sœurs, le deuxième bienfait qu'Allah nous a accordé, on ne peut pas les énumérer, mais dans l'ordre, après la foi, c'est la santé. Si nous sommes présents là, dans cette masjid, tant du côté des messieurs que des dames, c'est que nous avons toutes nos facultés motrices. Nous avons nos facultés psychologiques. On ne dépend de personne. Et ça, c'est un bienfait qu'Allah nous a accordé. Il ne faut surtout pas attendre de perdre une partie ou la totalité de ce bienfait pour réaliser enfin, et trop tard, que quand j'étais en bonne santé, c'était vraiment les plus beaux jours de ma vie. Le mu'min intelligent, les savants disent que le croyant intelligent, c'est celui qui à chaque instant réfléchit. Il perçoit, il reconnaît les grâces, les bienfaits d'Allah sur lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en éveil permanence. Ne soyons pas comme ces personnes qui ont l'esprit absorbé par la vie de ce monde. Soit les plaisirs de ce monde, soit les loisirs de ce monde. Tous ces aspirateurs de temps et de conscience que sont les réseaux sociaux, la téléphonie, les WhatsApp, les groupes, tout ça, ça, et le football, tout ça, sans pour autant dire que c'est haram. Mais ce sont là des aspirateurs d'esprit et de conscience. Ça t'empêche de réfléchir. Quand est-ce qu'on voit encore quelqu'un s'asseoir et réfléchir, méditer sur la grandeur d'Allah? Fala yandhuruna ila al-jiba, ila al-jabali, ila al-ibli, ila al-sama, ila al-ard. Qui c'est qui réfléchit sur la terre, sur le ciel, sur la créature d'Allah, les animaux, sur les montagnes? Qui a encore, excusez-moi de le dire, qui a encore le temps de le faire? pourquoi on n'a plus le temps de le faire? Parce que nous nous laissons absorber par différents facteurs. Soyons des croyants éveillés. Cette conscience spirituelle qui nous permet de faire le lien entre le Rububiyya et le Uluhiyya, entre la vision de la création d'Allah et le culte d'Allah Azza wa Jalla. C'est ce qu'on appelle des personnes intelligentes. On a besoin de croyants intelligents, pas de moutons qui suivent les troupeaux, même si nous suivons le troupeau, qu'Allah ait pitié de nous. Mais soyons cette personne, soyons les leaders de cette Ummah. Soyons les personnes qui ont la conscience éveillée, qui peut prendre des décisions, qui prend sa vie en main, qui décide de son devenir bi-idhnillah, qui mène son couple en fonction des ordres d'Allah, qui éduque ses enfants comme Allah l'a demandé, et non pas qui suit la société et tout ce qu'elle, tout ce vers laquelle elle nous invite. Hada. Et quand on parle de santé, on ne peut pas se permettre de continuer d'avancer sans avoir une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année et pour les personnes qui nous ont quittés les années précédentes. On ne peut pas citer des noms, on n'a pas le droit de le faire parce que sinon il aurait fallu citer le nom de toutes les personnes, de toutes les familles. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés et là je parle principalement de cette mosquée. Nous, l'islam, du centre-ville de Saint-Denis, on est beaucoup de mayettes. Qu'Allah Azza wa Jal face de leur tombe, rawdatun min riyadil jannah. Et n'oublions jamais que notre tour arrivera bientôt. Viendra une époque où les gens feront dua pour nous, faisant en sorte que nous n'ayons pas besoin de le dua. Faisant en sorte qu'Allah Rabbul Izzah tellement apprécie notre passage sur terre, que, arrivé de la tombe, nous voyons la nusrat d'Allah et nous voyons la récompense d'Allah, wa'adullah, pour tout ce qu'on a vécu dans ce dunya. Allahumma amin. Vous savez, le simple fait parfois de réfléchir sur les bienfaits qu'Allah nous a accordés, c'est suffisant pour avancer spirituellement. Chers frères et sœurs en islam, troisième ni'ma qu'Allah nous a accordé, là c'est en ce moment assister à une assemblée religieuse avec sincérité, rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jalla. Il y a beaucoup de hadiths qui vont de ce sens. On va juste se limiter à un seul. Lorsque des personnes se réunissent dans une des maisons d'Allah, ne sommes-nous pas dans une des maisons d'Allah? Sans le moindre doute, pour réciter le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et l'étudier. Est-ce que nous ne sommes pas en train de lire des versets? Est-ce que nous n'allons pas voir au long de cette intervention des ayats du Coran? Bien sûr que oui, nous allons réciter, nous allons écouter et nous allons essayer de comprendre pour mettre en application, pour mettre en pratique, pour augmenter notre foi, pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, nous sommes directement concernés par ce hadith. Donc, quand tu vois que les sifat, les qualités évoquées par le hadith correspondent à ton état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois être attentif et tu écoutes. Et tu sais que celui qui te promet là, il ne ment pas. Tu sais que celui qui te promet, il est généreux. Tu sais que celui qui te promet, il te donne tellement que même ce que tu n'as pas mérité, tu mérites, tu peux l'avoir. Dans le hadith, il dit que même celui qui passe, qui vient un instant, qui regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, il écoute deux secondes, il s'en va. Allah Azza wa Jalla est tellement clément. Allah lui donne la récompense équivalente à celui qui était là depuis 10h jusqu'à midi. Ça, c'est la clémence d'Allah. Alors nous qui sommes là assis depuis 10h30, on a envie d'écouter. Ikhwani fillah, khawati fillah, je vous demande une seule chose. Ikhlas niyya, sincérité. Écoutez, on essaie de comprendre et celui qui parle ne connaît pas plus que celui qui écoute. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Nous avons besoin de nous aider mutuellement pour être acceptés par Allah. C'est la seule chose qui compte. Ne regardez pas, lui il s'appelle un tel, lui c'est telle famille, lui il a eu tel problème de sa vie, lui c'est quelqu'un qui est reconverti à l'islam. Voilà, shay. Tout ça, ça ne nous intéresse pas parce que le jour de Qiyamah, la seule chose qui nous intéressera, ce sera iman wal amal wal salihah. Faisons en sorte que les priorités de l'au-delà ne deviennent pas une surprise. Que ces priorités aient toujours été nos priorités depuis qu'on est de ce dunya. Je cherche ridallah, contentement d'Allah et rien d'autre. Hada. Donc, parmi ces hadith qui parle des assemblées religieuses, notre Seigneur nous dit dans le hadith, toutes les fois que les gens se réunissent dans l'une de ces maisons pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, comme nous sommes là entre nous, les messieurs présents et les dames en bas, qu'est-ce qui arrive? La sérénité descend sur eux, la sakina. Où est-ce qu'on trouve la sakina? Si elle ne vient pas d'Allah, elle vient de qui? Est-ce que la sakina, vous l'obtiendrez auprès d'un psychologue? Auprès d'un psychiatre? Auprès d'un quelqu'un qui fait de la psychanalyse? Est-ce que la sakina, vous allez l'obtenir en avalant des comprimés de l'exomil, en avalant du stilnox, en avalant des je sais pas comment on appelle ça, les médicaments contre les états, hein, d'accord, ce genre de blues et ainsi de suite qu'Allah nous protège? La wallah, est-ce que la sakina, on va le trouver quand on aura les poches pleines? Est-ce que la sakina, on va le trouver lorsqu'on est comblé de bienfaits? Abadan wallah. Et dans le Coran, Allah Rabbul Izzah donne des exemples de personnes qui ont réussi dans le commerce, qui ont eu beaucoup de biens, qui ont eu énormément de choses. mais n'ont jamais eu la sakina. Ils n'ont jamais eu la tranquillité de cœur. Donc la sakina, elle s'obtient uniquement de la part d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les actions qui nous permettent d'avoir la sakina, cette quiétude, cette tranquillité, c'est majalis ou dhikr. Les assemblées de dhikr, et dhikr ça veut dire ilm. Les assemblées où on dispense la connaissance religieuse. Parce que lorsqu'il y a ce genre d'assemblée, la miséricorde d'Allah les couvre. Il y a la sakina, il y a la rahma. Qui d'entre nous n'a pas besoin de la rahma d'Allah? Chaque fois que tu lis le Coran, tu lis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est la qualité d'Allah, clémence, miséricorde, que tu lis le plus dans ta vie, consciemment ou inconsciemment, parce que tu vis de ça. Pour ça me dit, Wallahi, personne n'entrera au Jannah par ses actions, si ce n'est par la clémence d'Allah. C'est-à-dire que si tu n'as pas la clémence d'Allah, ta vie n'a aucun sens de ce dunya. Même si tu passes ta vie dans le premier rang de la mosquée, en jeûnant et en priant la nuit. On a tous besoin de la clémence d'Allah. Et dans ce genre d'assemblée, la rahmat d'Allah, elle descend sur chaque personne présente, même celui qui est là, juste pour un besoin technique ou de passage ou par curiosité, il l'obtient. Donc, il y a beaucoup de hadiths, mais on se suffit de ça. Et c'est amplement suffisant pour les gens intelligents et pour les gens qui veulent avancer, pour les gens qui ont le cœur ouvert, pour qu'on réalise que là, en ce moment, il n'y a personne qui est plus comblé par Allah que nous. On pourrait dire, mis à part celui qui est en train de faire le tawaf en ce moment autour de la Kaaba. Parce que lui, il obtient des choses que nous, on n'obtient pas. Mais nous, on obtient des choses que lui, il n'a pas exactement. Parce qu'on est dans une assemblée de ilm, lui, il est dans une assemblée de ibadah. On pourrait dire que ce sont les meilleurs des groupes de ce dunya en ce moment. Meilleurs que de ceux qui se réunissent pour la politique, ou pour les jeux, ou pour le sport, pour autre chose. Nous sommes, à ce moment précis, comblés par Allah Azza wa Jal. Parce que, à ce moment, les anges les entourent de leurs ailes, et Allah les mentionne devant ceux qui sont près de lui. Notre nom, Riyad, Ibrahim, Muhammad, Abdullah, Suleyman, nos prénoms, je jure par le Seigneur de la Kaaba, que nos prénoms en ce moment sont cités dans les assemblées des malaïkas auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà, il y a sharaf, quel honneur, quel consécration pour un croyant que d'être cité par Allah Azza wa Jal dans l'assemblée des anges. Tout ça on l'obtient uniquement en étant dans cette assemblée religieuse. Le hadith est rapporté par Muslim. Et si on analyse le hadith de Tirmidhi par exemple, Allah Azza wa Jal demande aux anges, ils veulent quoi ces gens? Et Allah connaît, oui ou non? Allah connaît. Mais Allah Rabbul Izzah envoie des anges parce que c'est l'organisation d'Allah. Des anges disent, Ya Allah, il te demande le paradis. Puis dit, Ya Allah, il te demande protection contre le feu de l'enfer. Je raccourcis le hadith. En conclusion, à la fin, Allah Azza wa Jal dit, je leur ai accordé mon pardon. Et le premier point, c'est qu'ils recherchent le pardon d'Allah. Allah dit, je leur ai accordé mon pardon. Et je leur accorde également ce qu'ils ont demandé, c'est-à-dire le paradis, et je les protège contre l'enfer. Rawahu Tirmidhi. N'est-ce pas là trois buts essentiels de nos doigts, de toutes nos invocations, que vous soyez ici à la Madinah de l'Islam, ou debout au Kouf Arafat en train de demander doigts? Quel est le premier doigt que vous demandez? Wallah, Touba ya Rabba, Touba ya Allah, pardon. Quel est le deuxième doigt que vous demandez? An-Najat minan nar, protection, protège-moi, protège ma femme, mes enfants, protège mes proches, qu'on le Jahannam, oui ou non? Wallah. Celui qui ne fait pas, il n'est pas conscient. Mais nous sommes tous des croyants conscients. Et la troisième fois, Ya Rabb, Jannatuk, nous demandons ton Jannat, ton paradis. Parce que ici, c'est difficile, oui ou non? Ce dunya, c'est une terre d'épreuves, une terre de difficultés, un endroit où on passe de souffrance en souffrance, de frustration en frustration, un endroit où on se sent mal. Il est normal de se sentir mal, et il est même bien d'avoir des épreuves, parce que c'est preuve qu'on est aimé et accepté par Allah. Mais on demande quoi, le Jannah? Et ces trois doigts sont accordés pour ceux qui sont présents dans une assemblée. L'objectif de cette longue introduction, c'est quoi? Surtout par rapport aux assemblées religieuses, que ce soit cette assemblée, ou une autre, ou le ta'lim des dames le dimanche matin, même quand il y a 10 kalas qui sont présentes, c'est la même assemblée. C'est la même chose. Même s'il n'y a pas une conférence d'une heure trente ou de deux heures, du moment que c'est une conférence, c'est du ta'lim basé sur la parole d'Allah, la parole de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam, et qu'en face les gens sont sincères, ils obtiennent tous ces récompenses de majlis, comme ce majlis, tout comme si ce majlis avait lieu à Makkah al-Mukarramah avec un shuyukh, des shuyukh ou al-Madina autour de al-Haram al-Madani. C'est pareil. C'est une assemblée de spiritualité. Qu'Allah Rabbul Izzah nous enveloppe de sa clémence, de sa sa miséricorde et nous accorde ses trois récompenses, on se reconcentre tout de suite et immédiatement et de façon parfaite sur le ikhlas, sur la sincérité pour obtenir ses récompenses. Il y a un troisième hadith, je ne peux pas m'empêcher de le citer, c'est le hadith de l'imam Ahmed, que ma min qawmin ijtama'u yadhkurun Allah azza wa jal, la yuriduna bidhalika illa wajha illa nadahum. Quand des gens comme nous, on va pas traduire, comme nous on est là en ce moment, à la fin de l'assemblée, il y a un i'lan, mais ce i'lan on l'entend? On n'entend pas. Les anges qui sont là avec les anges, on les voit? On ne les voit pas. Ça fait partie du iman bil ghaib. C'est quoi l'i'lan? C'est quoi l'annonce qui est faite? Et là, on ouvre nos oreilles et on ouvre nos cœurs parce que cette annonce concernera chaque personne à midi. Lorsqu'on se lève de cette assemblée, ce i'lan me concerne et j'ai iman yaqin. J'ai une conviction inébranlable. J'y crois plus que le fait que je suis présent parmi vous. Parce que ça vient de mon Rabb qui nous annonce que vous pouvez vous lever. Qumu maghfuran lakum qad badaltu sayiatikum hasanat, rawahu Ahmad. Vous pouvez vous lever, c'est-à-dire à la fin de l'assemblée, vos péchés ont été transformés en bonnes actions. N'est-ce pas là le summum, n'est-ce pas là la gratification suprême de la part de notre Seigneur pour nous, simples serviteurs et simples pécheurs? Allah nous accorde tout ça en même temps. Nahmadullah wa nashkurullah wa nakhlisun niyya lillahi azza wa jal. Clémence d'Allah, bénédiction d'Allah, tranquillité, rahma, apaisement, pardon d'Allah, présence des gens, obtention du paradis, garantie de protection contre le feu de l'enfer, être cité auprès d'Allah azza wa jal. C'est tout ce qu'il y a au programme aujourd'hui. Si on termine aujourd'hui là maintenant, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wallahi l'azim, on est gagnant. Parce qu'on a obtenu énormément de choses, peut-être plus que ce que nous obtenons le soir. Après ça dépend de la spiritualité de chacun sur le tapis de prière. Parce que majalis dhikr, c'est vraiment quelque chose qui est aimé par Allah azza wa jal. Et troisième ni'ma, c'est pas le troisième, mais parmi les ni'ma qu'on va citer, louange à Allah qui nous donne l'opportunité de vivre ce Ramadan, comme Ali Mohamed Bagat nous a dit tout à l'heure, mois de bénédiction, mois de clémence, les portes du ciel sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont emprisonnés, le nafs est sous contrôle. Shaitan ne t'embête pas, pis de waswasa. Il reste qui après le shaitan? Le nafs, inna nafs ala ammaratum bisou. Ton nafs, il est emprisonné, parce que tu ne manges pas, tu bois pas, tu ne l'obéis pas. Donc il n'a plus de pouvoir sur toi. Et ça fait partie de la clémence de l'an de le mois béni. Les bonnes actions sont mudha'afa, sont beaucoup plus récompensées qu'en temps normal. Tu fais une prière, tu obtiens ce que tu ne peux même pas compter, ni même imaginer. Et ce que tu n'obtiens pas de le mois de Sha'ban, de le mois de Dhul-Hijjah. Nos doigts sont exaucés durant le mois de Ramadan et principalement lors de la rupture du jeûne. Quand on casse notre carême, comme on dit, levez les mains, demandez doigts pour vous. Pour votre épouse, pour votre mari, ce sont les dames qui écoutent, pour vos parents, birrul walidain, qu'Allah ait pitié d'eux, pour vos enfants, qu'Allah les garde sur le droit chemin, qu'Allah les protège min al-fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde baraka de nos biens, de notre santé. Ikhwani akhawati fillah. Essayons de développer la conscience spirituelle à travers chaque seconde, chaque fraction de cette journée de ibadah. Et nous allons nous délecter du Ramadan. Nous allons pas le vivre comme un fardeau qu'on attend, qu'on tourne les jours pour enfin Eid et revenir à une vie normale. Là, wallah. La vie normale, c'est maintenant. C'est la vie de istislam ulillah. La vie de soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah nous accorde cette clairvoyance, qu'on arrête de pratiquer comme ce troupeau de moutons qui avance de façon mécanique, que nous arrivions enfin à pratiquer avec intelligence et avec l'éveil d'esprit et l'éveil spirituel. Des gens qui réfléchissent, ulul albab, des gens qui arrivent à intégrer les choses, al-kayyisu, toutes ces qualités, on a besoin de les intégrer. Allahumma rzuqnaha. Yeah. Également, durant ce mois béni, le pardon divin. Chaque nuit, Allah Rabbul Izzah envoie son pardon et des gens sont délivrés de l'enfer. Et le summum, c'est dans la dernière décade avec la nuit du destin. Donc, vivre en Ramadan, c'est un ni'ma de la part d'Allah. Et personne n'a la garantie de vivre encore 10 ou 15 Ramadan. Il y a des gens qui étaient avec nous dans ce majlis l'année dernière. Ils n'y sont plus. Il y en a un qui était là, l'autre côté, qui lisait le Coran. Layla wa Nahara, je dis pas son nom, en permanence. Allah l'a repris. Il y en a un autre qui était là, à la place de Hadjisab Safla, qui lisait ce Coran, qui faisait
partie des piliers de la mosquée. Allah Rabbul Izzah l'a repris. Et ainsi de suite. Je ne peux pas citer cet homme qui fermait la mosquée tous les soirs pendant des années. Allah Azza wa Jalla l'a repris il y a un mois et demi. Et toutes ces personnes pensaient vivre notre Ramadan. Ils avaient des objectifs. Ils voulaient s'améliorer. La barbe était déjà blanche. Mais ils voulaient encore se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbul Izzah les a repris vers lui. Et ça, c'est la vie. C'est la sunnah d'Allah. Là, on vient à Ramadan. On ne sait même pas si on rompt le jeûne ce soir. On ne sait pas si on est là encore demain ou dans un an. Donc, profitons du moment présent. Dans la société, on dit profitez de votre vie. Enjoy your life. Amusez-vous. Là, wallah. Nous, on dit profitons des instants présents parce que ce sont les moments où nous pouvons nous rapprocher d'Allah. Azza wa Jalla. Et les actions qu'on doit essayer de développer le mieux possible durant ce mois béni, les 5 prières. Ikhwani akhawati fillah, le 5 namaz faraz, obligation, ça on ne doit pas les manquer, mais en aucun cas durant le mois de Ramadan. Et pour les messieurs, en jama'a, en congrégation. Et on se concentre également sur les prières nafil. Tahajjud, qiyamul layl. On doit lever les mains et dire, Ya Allah, durant ce mois béni, accepte-moi pour être parmi les sajidin, raki'in, ceux qui se prosternent devant toi tous les soirs. Qu'on ne rate pas un tahajjud durant ce mois béni. Allahumma waffiqna, Ya Allah. Et qu'on ne rate pas un namaz de shuruq, ishraq, le matin, après le lever du soleil. On se concentre également sur le saum. C'est facile de dire, sur le jeûne. On dit que tout le monde jeûne. Le faire de façon consciencieuse. Ça, c'est une autre thématique, mais le fait avec dévotion, concentration et un contrôle total de soi. Troisième point, on se concentre sur nos invocations. On doit demander beaucoup de doigts durant ce mois béni. Quand vous allez au Hajj, vous êtes près de la Kaaba, vous faites Tawaf, vous faites Sa'i, vous êtes à Mina, Arafat, Muzdalifa. Quelle est l'action qu'on fait le plus? Chaque fois on fait doigts. On fait doigts, on demande. Mais durant ce mois béni, pareil, on doit demander, mais presque sans arrêt. Et pour faire doigts, il n'y a pas besoin d'être en état d'ablution. Il n'y a pas besoin même d'être en état de tahara pour les dames. Il n'y a pas besoin d'être dans une mosquée sur un moussalla. Vous êtes dans la voiture, dans les embouteillages. Subhanallah, vous faites doigts. Il y a des gens qui, à cause des embouteillages, ils vont casser tout le carême en route. Ça nous arrive. Vous êtes dans les embouteillages, vous êtes coincé, ainsi de suite. Oud'Allah. Si c'est pas par la langue, de ton cœur. Et Allah entend, Ali Mumbizatis, Soudour, il connaît ce qu'il y a de ton cœur. Le doua, ça doit meubler presque la totalité de notre espace-temps durant Ayyam Ramadan. Quatrième action sur laquelle on doit vraiment se concentrer, As-Sadaqa, l'aumône. Il y a beaucoup de gens qui donnent la zakat durant le mois béni, ça c'est notre devoir. Mais l'aumône, mais tous les jours. Tous les jours, on essaie de donner une aumône. Si c'est de l'argent, c'est de l'argent. Si c'est pas de l'argent, ce sera quoi? De la nourriture. Invitez les gens à manger chez vous. Donnez ne serait-ce qu'une date. Il n'y a pas plus grand bonheur que quand tu vas à la mosquée, tu es en retard, l'adhan est en train d'être donné, tu croises quelqu'un et tu te dis qu'il n'a pas cassé son carême comme moi. Tu ouvres ton plat, tu lui donnes une date. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu viens d'obtenir là? L'équivalent de sa journée de amal saliha, de bonnes actions, sans que cela ne diminue ce que lui obtient de la part d'Allah. Et ça, c'est le karam, la générosité d'Allah. Donner, vivre avec les autres, s'ouvrir sur les autres, ça fait partie des actions essentielles de ce mois béni. Ça fait 4. Cinquième action, la lecture du Coran. Essentiel de donner le maximum de temps, passer le maximum de temps dans la lecture du Coran et le dhikrullah à longueur de journée. On ne laisse pas un moment où on rêvasse, où on écoute la radio, on essaie de faire le dhikrullah, soit avec les doigts, avec un tasbih, peu importe, ou dans le cœur. Mais que le cœur soit relié à Allah Azza wa Jal en permanence. Là, on est en train de construire notre personnalité de musulman. Là, on est en train de faire des provisions pour le reste de l'année. On est en train de se fortifier. On est en train, dans un langage plus banal, de faire le plein spirituel pour, pas pour ce mois, pour les joies qui vont venir. Pour les joies où Shaitan revient et que le nafs est à nouveau le dessus sur nous, pour qu'on soit fort, au moins jusqu'au prochain Ramadan. Et donc, pour arriver à ces actions, 5 ou 6, on doit demander de nos doigts, oh Allah, aide-moi, accepte-moi pour faire ça. Parce que tu ne pourras pas le faire tout seul. Ya Rab, j'ai envie de faire namaz tahajjud. Ya Allah, je veux lire le Coran, mais j'arrive pas. Quand je commence à lire 2 lignes, je pense à autre chose. Je rêve 10 minutes, je lis 2 minutes. Ça arrive pas. Bien sûr que ça arrive. Regardez les gens lire dans la masjid parfois. Ils lisent et regardent partout, ils rêvent. Et puis ils recommencent à lire, ils rêvent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concentration. Lève tes mains. Dis, oh Allah, j'ai envie de lire ton livre, donne-moi la possibilité de le faire. Donc demandez à Allah tawfiq de faire les bonnes actions. Et demandons à Allah de nous accorder la douceur de la foi. Si tu as la douceur de la foi, on appelle ça halawatul iman. Tu profites spirituellement de chaque instant passé dans le tazallul wal khudur, dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Et demandons à Allah, troisième point, qui connaît c'est quoi le troisième point? Al-istiqama. la continuité dans ses bonnes œuvres, la fermeté. Que ya Allah, là je fais tahajjud, 30 jours de tahajjud, ya Allah, accepte-moi que après Ramadan, je continue à faire tahajjud. Pourquoi je ne ferai pas partie des gens qui se prosternent tous les soirs de le dernier tiers de la nuit? Pourquoi je n'ai pas le droit, pas le droit, mais pourquoi je ne fais pas partie des gens qui lisent Coran tous les jours? Pourquoi je ne fais pas partie des gens qui lèvent les mains tout le temps, ya Allah, ces actions, donnez-moi tawfiq de le faire 30 jours de Ramadan et istiqama alayha durant toute ma vie jusqu'à ce que je te rencontre et reprends mon âme alors que je suis dans ton ibad, dans ton adoration. Ça, c'était l'état d'esprit des pieux prédécesseurs. Ça, c'était leur conception de leur alaqa, leur relation avec Allah. Ce n'est pas une relation périodique, mais une relation permanente. C'est le sens profond de ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Et quand tu accomplis ces actions, tu construis ta relation avec Allah. Bien inconscient, celui qui n'a pas réalisé que les a'mal du quotidien te permettent de construire une relation avec Allah. Bien inconscient, celui qui n'a pas compris que j'ai besoin de créer un lien avec mon Seigneur. Et pour créer un lien avec Allah à travers ses actions, je dis bien à travers ses actions, il faut savoir faire le lien, donner un sens à ses actions. Ne les accomplis pas comme tout le monde. Fais-le de façon intelligente. Et on va revenir là-dessus. En accomplissant ces actions, tu vas augmenter ton capital taqwa pour toute l'année. Tu prends l'habitude de lutter contre ton nafs. Tu le maîtrises. Et après le mois béni, ton nafs, il ne t'ordonne plus de faire le mal parce qu'il était maîtrisé. Quand tu accomplis ces actions avec les qualités qu'on a dit, les trois invocations qu'on a dit, tu te réformes intérieurement. Et tu vas pouvoir t'ouvrir aux autres par le biais de l'aumône et ainsi de suite. Et vous savez, il y a une parole qui est magnifique. Ça c'est Cheikh Mohamed Patel qui nous a donné l'occasion de lui donner un peu de son temps précieux à la Réunion avec une assemblée de jeunes la semaine dernière. Et il sera là la semaine prochaine pour le prochain programme, Inch'Allah. Il a trouvé quelque chose, mais il n'y a que lui qui trouve des trucs comme ça d'ailleurs. Il est fort, Inch'Allah. Et il a trouvé le ra'y d'un mufassir que j'ai jamais vu, subhanallah, un commentateur du Coran qui dit, il a remonté l'étymologie du mot Saum. On connaît l'étymologie, mais il y a un ma'na qui n'est pas connu de beaucoup de gens, mais c'est vraiment réservé aux linguistes, aux puristes. Il a dit que Saum, chez les Arabes, dans le Jahiliya avant, on appelait un Farasun Sa'im. Un Farasun Sa'im. Faras, c'est quoi? Comment, c'est quoi Faras? Un cheval. Un cheval Sa'im, c'est quoi? Il a dit, c'est un cheval qui a été entraîné. Parce que, et puis il a expliqué, quelle est la différence entre un cheval et un chameau? Le chameau, il est endurant, et si tu le connais, bref. Le cheval, il est rapide, mais il n'a pas beaucoup de force, il a besoin de boire, il est fatigué rapidement, trop de soleil, il meurt. Déshydrate, s'il n'a pas d'eau en plus. Donc, les Arabes de le Jahiliya, pour les guerres, avaient l'habitude d'amener les chevaux, dans le désert. Et les laisser vivre dans le désert, supporter le soleil, le manque d'eau et les vents violents du Sahara, du désert, pour que le cheval se renforce. Ce qui veut que ce cheval aura les qualités du chameau. Il deviendra un outil indispensable, parce que c'était des guerres en permanence entre les tribus arabes. On appelait ça un farasun sa'im. Et donc, quand les musulmans ont entendu « Kutiba alaykum al-siyam », ils ont tout de suite compris qu'est-ce qu'Allah attend d'eux. Devenez des personnes endurant spirituellement. Qu'Allah nous envoie un mois d'entraînement spirituel. Résiste à la faim, résiste à la soif, résiste aux pulsions, contrôle ton regard, ne mange pas, prie, reste longtemps. Il faut que tu aies mal aux genoux, il faut que tu aies mal aux chevilles, dans les prières de la nuit, reste longtemps. Ça fera de toi un serviteur pieux. Et Allah ne veut que du bien pour nous. Que nous devenions des serviteurs pieux. Le premier doigt que je dois demander quand je casse mon carême, « Ya Allah, aime-moi !» Pas compliqué, en deux mots. « Oh Allah, aime-moi !» Oh Allah, que je sois parmi tes serviteurs préférés. Min ibadika salihin. Ya Allah, comment on ne m'y connaît pas? Je ne sais pas, mais envoie les asbab pour que tu m'aimes. D'où, sans épreuve, on ne demande pas des épreuves bien sûr. Envoie les conditions, réunis les conditions d'action pour moi, pour que tu m'acceptes. Ça doit être l'objectif d'un croyant, être aimé par Allah. Et le somme, ça te donne l'endurance spirituelle pour devenir un croyant éclairé et qui va pouvoir avancer comme le cheval qui maintenant court, il avance, il est endurant jusqu'à atteindre son objectif. Et notre objectif c'est quoi? Hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à la mort. C'est ça que ce dunya, quand on dit « Sijun al-Mu'min », quand on dit « Zuyin al-Nas », qu'est-ce que c'est bête ça ?« Zuyin al-Nas, yuhubbu al-shahawat, min al-nisa, wal-banin, wal-qanatir, al-muqantar, min al-dhahab, wal-fidda, wal-khayl, ila akhir aya » Tout ça c'est « Zinatul hayat » dunya, tout ce qu'on peut contempler comme chose qui forge notre admiration. L'argent, l'or, les biens, les bâtiments par analogie, tout ce que les gens, les belles voitures, c'est zinatul hayat dunya, c'est éphémère. Dans un hadith, on dit que c'est comme des personnes qui voient une pluie qui tombe et que de la terre, il y a des fleurs qui poussent, il y a des arbres fruitiers, il y a plein de choses. Et yu'ajibul kuffar, ils regardent et ils sont admiratifs. Ça, c'est pour nous. On va en profiter, on va faire ça. Un instant pris, un vent chaud, et ce qui est vert devient jaune, et il se met à dépérir. Et le Coran dit, voilà, le dunya, c'est comme ça. C'est exactement comme ça. Tu obtiens, tu fructifies, soit c'est toi qui pars, soit c'est lui qui te quitte. Donc ne nous laissons surtout pas aveugler par ce qui brille. Ce qui doit briller, c'est ce qu'il y a de plus profond de notre cœur, c'est notre iman et notre relation avec Allah Azza wa Jal. Ikhwani Rawat et Fillah, durant ce mois et à travers les actions qu'on a citées, on doit travailler la soumission à Allah Azza wa Jal. Il est essentiel et capital de ressentir la soumission à Allah Azza wa Jal à travers chaque bonne action et à chaque fois qu'on s'éloigne des péchés. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, donner un sens à l'action. Différence en celui qui vient qui prie. Il fait son namaz, il part. Et celui qui, lorsqu'il prie, waouh, je suis debout devant Allah. Et là, je veux me mettre en génuflexion. Je reste immobile. Ça, c'est la position difficile. Mais Allah veut que je me mette dans cette position. Ya Allah, ça c'est pour toi. Alhamdulillah, je vais me prosterner. Je suis le plus proche de mon Seigneur dans cette situation de prosternation. Et tu dis, alors que tu auras du sol, Subhan Rabbiyal, Ala, toute louange, pureté, Allah, le très haut. Tu sens cette relation entre la créature et son créateur, que tu donnes un sens à tes prières. Quand tu pries, tu soumets tes yeux, ta langue, ton gestuel, ta pensée à Allah, et ça, c'est une partie de la soumission du croyant à Allah, Azza wa Jal. Quand tu jeûnes, tu as un engagement avec Allah. Qu'est-ce que tu dis le matin? Allahumma inni asumu ghadallak. Tu promets à Allah, aujourd'hui je jeûne, et tu vas tenir à ta promesse. Mais c'est un entraînement à cette grande promesse qui est, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Oui, Allah, on est écrit pour toi dans l'adoration, et tu t'engages à rester ferme dans son ibadah jusqu'à la mort. Quand tu fais tarawih, et que tu as mal, comme on a dit tout à l'heure, tu te dis que ça, c'est pour Allah, pour nous rapprocher d'Allah. Quand tu donnes le monde, tu te dis que j'aimerais garder ce billet de 50 euros, mais je le donne, mais ça, je casse mon nafs, ça c'est pour Allah. J'investis pour Allah et pour mon akhira. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une bonne action, quand tu vois quelque chose que tu ne dois pas regarder, tu détournes ton regard. Quand tu entends quelque chose, et tu n'écoutes pas, tu te dis que je m'éloigne de quelque chose que j'ai envie de faire pour Allah. Et là, tu donnes un sens, lillah. Et là, ces actions, ils vont s'installer. Et la lumière des actions vont s'installer dans ton cœur. Et ça va grossir, ça va amplifier le capital taqwa qu'on a cité tout à l'heure. Et l'objectif du jeûne, c'est la'allakum tattaqoun, afin qu'on parvienne à la piété. Mais ikhwan ya khawati fillah, la taqwa, elle ne s'obtient pas en un jour. On ne devient pas pieux quand on se réveille le matin. C'est un effort que je fais au quotidien à travers des sacrifices. As-sabru fi ta'a. Tu es patient et endurant dans les bonnes actions. Tu le fais même si c'est dur, tu le fais. As-sabru anil ma'siyah. Tu as envie, tu es attiré par des péchés ou tes amis t'invitent vers les péchés. Tu n'y vas pas par amour et par crainte d'Allah. Et as-sabru indal bala. Tu es patient face aux difficultés, aux épreuves, parce qu'il n'y a rien qui augmente plus le grade d'un croyant que d'être patient dans les épreuves. Et si j'ai pu développer mon capital taqwa, j'aurais obtenu à la fin de ce mois béni des qualités durables que je vais emporter avec moi pour toute l'année. Est-ce que la salatu tarawih, tu le mets en pratique toute l'année? Non. Est-ce que le jeûne, tu l'emportes avec toi toute l'année? Non, c'est limité au mois béni. Mais si tu as pu obtenir, tu as pu extraire la taqwa à travers ces bonnes œuvres, tu vas avoir un cœur muttaqi de pieux. Et ça te sera utile toute ta vie. Ça, c'est l'homme qui a réussi son ramadan, parce que la'allakum, c'est l'âme litta'lil, afin que vous deveniez pieux, que vous obteniez, vous puissiez obtenir, pardon, la piété. Et quels sont les samarats de la taqwa? Et dans Riyad al-Salihin, regarde en français, c'est tout simplement magnifique. Il y a les versets, tous les versets de la taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Quand tu fais preuve de piété, Allah t'accepte pour faire les bonnes actions. Qu'est-ce qu'on a demandé tout à l'heure parmi les premiers doigts? Oh Allah, accepte-moi. Ya Allah, aime-moi. Accepte-moi. Quand tu fais preuve de piété, tu te préserves pour Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah t'accepte pour les bonnes œuvres. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et Allah pardonne les péchés. Ça rejoint le doigt qu'on a demandé au début. Autre verset. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Quand tu fais preuve de piété, Allah t'accorde l'ouverture. Tout ce que tu as besoin, Allah t'accorde. إِنْ تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Allah t'accorde comment on pourrait traduire ça, Allah t'accorde, on va dire, le discernement. Allah te fait voir le bien. Allah te fait voir le mal. Allah te montre où tu mets tes pieds et tu ne tomberas pas, tu ne sombreras pas dans les pieds de Shaitan. Waswasa de Shaitan. Tu ne tombes pas dedans. Pourquoi? Parce que tu es pieux. Et donc, yaj'alakum furqan. Celui qui a le furqan, il a les yeux bien droits. Il voit et il ne se laisse pas tromper par les fitan, par le waswasa et par son nafs. Il voit la vérité et Allah lui donne la possibilité d'avancer. L'objet, comment il faut, on peut obtenir ça? C'est par le capital piété, taqwa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Et Allah effacera vos méfaits. Ça veut dire quoi, effacer vos méfaits? Parce que juste après, il y a wa yaghfir lakum. Ça veut dire la même chose théoriquement. Et vous pardonnera. Quelle est la différence entre effacer vos méfaits et vous pardonnera? Les mufassirin disent que yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah te donne la possibilité d'accomplir des bonnes actions. Et ces bonnes actions-là, lorsqu'ils vont entrer dans ton livret de compte, ils vont faire sortir les péchés. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Wa yaghfir lakum, et Allah pardonne tes péchés. Et les muhadithin, ils vont plus loin. Nous, c'est notre compréhension basique. Les muhadithin disent que quand Allah te dit wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah te donne tawfiq de demander pardon. C'est pas donné à tout le monde, ça. Tu as fait quelque chose de mal, tu pleures, dis Allah, pardon, tawba ya Rabb. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû. Quelqu'un qui a regardé quelque chose de pas bien, il y a deux cas de figure. Celui qui regarde et qui cumule les regards et qui s'en va et qui avance. Allah, Mustan, qu'Allah nous protège de ce cœur qui est déjà dur, qui est devenu imperméable à ce sentiment de tawba, de culpabilité. Et l'autre qui sent qu'il a fait un péché, il va tout de suite se prendre, ya Allah, pardon, ya Rabb, tawba, ya Allah, que les anges inscrivent pas ça sur mon péché, sur mon livret d'action. Je ne veux pas voir ça dans le livret d'action, je veux dire, yama. Allah te donne ses qualités, tu reviens vers lui à chaque fois que tu as fait des erreurs. Parce que nous commettons des erreurs. Il n'y a pas un homme qui ne commet pas d'erreurs. C'est pas qu'Allah te donne la protection contre tous les péchés, même si tu pèches, parce que c'est le propre à chaque homme et femme de commettre des erreurs. Allah t'accepte, te donne l'instinct de demander immédiatement tawba, et ça c'est wallahina idha fa'alu fa'isha aw zalamu anfusahum dhakarullah, c'est-à-dire tout de suite ils pensent à Allah après avoir accompli les péchés, dhakarullah fastaghfiru, demandent istighfar tout de suite. Et c'est Allah qui accorde le pardon. Ça, ce sont des thamarat, les bienfaits de la taqwa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Et inna akramakum 'indallahi atqakum. Les gens les plus aimés, les plus honorés pour Allah, ce sont les pieux. Est-ce qu'on ne veut pas être les gens les plus aimés, les plus honorés? Oui, sans le moindre doute. Est-ce que nous ne souhaitons pas être parmi les plus honorés le jour de Qiyama? Bien sûr que oui. Mais pour cela, il faut développer la taqwa. Et ça, c'est dans ce mois béni qu'on a cette opportunité de développer les actions qui vont nous permettre d'arriver à la taqwa. Donc, en conclusion, on appelle ça conclusion de l'introduction. L'Amoui Bagat est parti, on a pu faire un hors-sujet de 35 minutes. Tant qu'il était là, c'était pas possible. À travers les actions principales qu'on vient de citer, à travers les actions principales du Ramadan, ben nous voyons les axes, il y a 4 axes sur lesquels nous devons construire notre relation avec Allah. Comprenons ce terme, une relation qu'on doit construire avec Allah, c'est basé sur 4 piliers. La relation intérieure, patience, soumission, dévotion, acceptation de la décision d'Allah. Les actes d'adoration extérieure, c'est-à-dire là on parle de relations extérieures. Ibada, pas besoin de donner des exemples. La salat, la lecture du Coran. Non, la lecture du Coran c'est autre chose. La salat, le dhikr, ainsi de suite. Troisièmement, le retour vers la source. C'est quoi la source? Kalamullah. De le mois de Ramadan, tu te reconnectes à la source de la révélation. Tout ce que tu accomplis comme bonne action, ça émane d'où? Du Coran, et ensuite de la Sunna, qui est le tafsir, qui est le commentaire, qui sont les commentaires du Coran. Donc, une connexion vers la source. C'est pour ça que durant le Ramadan, tu deviens quelqu'un de bien. Mais si tu le fais de façon intelligente, tu te connectes au Coran. Pas cumuler Katam Coran, rapidement, enchaîné. Tu comptes cette année, tu as fait 8, l'année dernière c'était 7, donc c'est mieux. C'est pas forcément mieux, c'est beaucoup. Peut-être plus de hasanat, Inch'Allah. Parce que Alif Lam Mim, on connaît les vertus, chaque lettre c'est une récompense, mais en termes de qualité et en termes d'apport spirituel, ça ne t'a pas forcément été plus profitable. Ça aurait été peut-être plus profitable, tu fais un seul katam, mais quand tu lis Zalik al-Kitab ou la Rebafi, tu regardes Ibn Kathir en français, ça veut dire quoi? Et tu comprends, tu médites, tu mets ça en application, et ça te permet d'avancer. Parce que comme ça m'a dit, je vous ai dit ces deux choses, accrochez-vous à ces deux choses, le Coran et la Sunna, vous ne serez jamais égarés. C'est-à-dire que vous allez toujours avancer, même s'il fait noir. Même si tout autour de toi il y a des péchés, il y a les gens qui invitent vers le haram, si tu as la parole d'Allah, la parole de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam, même dans le nord, tu t'accroches à Hablullah et tu vas avancer jusqu'à arriver auprès d'Allah azza wa jal. Donc, relation intérieure, premier axe, relation extérieure, c'est-à-dire ibadah, troisièmement, retour vers la source, le Coran, et quatrièmement, la proximité avec les gens. Par le biais de la sadaqa, l'aumône. la rupture du jeûne, la fitra qu'on donne, la sadaqat al-fit qu'on peut appeler également, le partage, ainsi de suite. Et à travers ce quatrième point, c'est là qu'on voit, et on arrive à le sujet, on entrevoit, je ne dis pas qu'on voit, on entrevoit que dans notre religion, il y a des valeurs universelles. Il y a des valeurs universelles de l'enseignement du Coran et de l'enseignement de la sunna de le prophète alayhi salat wa salam qui répond à un point important qu'on appelle en islam al-insaniya, l'humanisme, qu'on appelle également al-rahma, la clémence, la bonté, la bienfaisance, la miséricorde envers les gens. Ça c'est à la base de notre dîn, de notre religion. Et ça, on le retrouve dans quelques actions du mois de Ramadan. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans ce développement. Il y a quelque chose qui doit être vraiment clair de notre tête, de notre cœur. On ne pourra jamais atteindre le summum, le sommet de la foi, uniquement sur le musalla, sur le tapis de prière. On ne pourra jamais atteindre le summum de la foi, uniquement en faisant le tawaf autour de la Kaaba. On ne pourra jamais atteindre le paroxysme, le summum de la foi, uniquement en lisant ou en mémorisant le Coran. La wallah. Tant qu'il n'y a pas une relation avec les hommes, avec les créatures d'Allah, on n'atteint pas le summum de la foi. Regardez les premiers versets du Coran. Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. C'est une guidée pour, c'est un guide pour les pieux. Et là, le jawab c'est quoi? Alladina. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jalla explique les muttaqin, c'est un concept, c'est une qualité qu'Allah a annoncé, les pieux. Mais qui sont les pieux? Et là Allah explique alladina yu'minuna bil ghaib. C'est un guide qui croit à l'invisible, et qui accomplisse la salah, et qui dépense de l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas la foi, mais ça on a la foi, alhamdulillah, tant que tu n'accomplis pas la prière, qui est le premier pilier de l'islam, et tant que tu n'es pas proche des gens, tu ne développeras jamais la piété, tu ne deviendras pas un hudalil muttaqin, tu ne feras pas partie du cercle privé des muttaqin. Donc, la proximité avec les gens, et on verra que c'est de personnes de toute confession. Quand on parle de créature d'Allah, il n'y a plus de différence. Tant qu'on n'est pas proche, on ne développe pas ces relations, cette relation d'amour, de muhabba pour la création d'Allah Azza wa Jal, on ne fera jamais partie des pieux. Même si tu restes enfermé dans la masjid, comme on a dit, à jeûner et à prier et à faire le dhikrullah, tant que tu n'as pas une relation humaine avec le monde extérieur, musulman, non musulman, citoyen, être humain, tant que tu n'as pas une relation basée sur les relations que le prophète avait avec les gens. Et le prophète a côtoyé musulmans, il a côtoyé polythéistes, il a côtoyé gens du livre, chrétiens et juifs, il a côtoyé les athées, il a côtoyé des gens qu'il appréciait de loin, des gens qu'il admirait de près, des gens qui le détestaient de loin, et des gens qui ont essayé de l'assassiner de près, et qui l'ont empoisonné aussi, et qui l'ont ensorcelé aussi. Et avec chacune de ces personnes, le prophète a eu un comportement qui est noble exemple. C'est pas juste, regarde comment est-ce que le prophète se comporte avec sa femme. Regarde comment il se comporte avec ses enfants. Non! Regarde comment est-ce qu'il se comporte avec ce voisin de confession juive. Regarde comment est-ce qu'il se comporte avec cette femme qui l'a empoisonné, qui a mis du soum dans la nourriture. Regarde comment il se comporte avec l'abid qui a pris ses cheveux moubarak, qui a fait le sihr, la sorcellerie sur lui. Comment est-ce que le prophète est passé sur ses péchés? Il n'a pas demander que la personne soit châtiée. Pareil pour cette femme, pour lui-même, il n'a pas demandé le qissas. Ça c'est uswatun hasana, l'ouverture envers les autres, toute confession confondue. Ça, c'est pas juste un beau message qu'on va dire après les attentats, hein. Faut pas croire que quand il y a un attentat, là tu vas dire oui, l'islam est une religion d'ouverture, de paix, d'amour, de fraternité. C'est pas uniquement là qu'on dit tout ça. Ça c'est notre dîn. C'est à la base des premiers versets du Coran. Et al-infaq, donner à manger. Allahu Akbar. Vous croyez qu'Allah nous demande, donne à manger aux musulmans et laisse ceux qui n'ont pas la foi mourir de faim. Alors qu'Allah lui-même donne le rizq aux personnes qui ne croient pas en lui. Parce qu'Allah il est as-sabour, celui qui a la patience face au péché de ses créatures. Il leur donne, même celui qui se prosterne devant une pierre, Allah lui accorde. Et vous pensez une seconde que mimma razaqnahum yunfiqun sera réservé à ahlut tawhid, la wallah, à toute créature d'Allah Azza wa Jal. On va essayer de développer ça au fur et à mesure, inshallah. Regardez la sourate l'Anfal, on s'arrêtera avec deux versets. يسألونك عن الأنفال جسد غطو لبسيق قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين si vous êtes des croyants. Et là, إنما المؤمنون. Qui sont les croyants? Innamal mu'minuna alladhina yuqimuna as-salata. J'ai perdu le verset. Innamal mu'minuna alladhina خير إن شاء الله. C'est bien. J'ai vu le début, j'ai pu la fin. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله خير إن شاء الله. Dans le surat al-Anfal, il est cité le verset. Ceux qui croient en Allah, ceux qui font les actes d'adoration, et paraît exactement comme la surat al-Baqarah, et qui donnent et qui partagent, qui se rapprochent des gens. Et là aussi Ibn Kathir, je cite toujours Ibn Kathir, rahimahullah, et certainement d'Al Mufassin, il rappelle que, pour être innamal mu'minun al-ladina, certes les croyants sont ceux qui, développent la foi en Allah, développent les actions, et développent ta relation avec les gens. Autrement, tu ne seras jamais parmi dans Baqara les muttaqin et dans Al-Anfal parmi les mu'minin, parmi les croyants, les véritables croyants. Hada. Ainsi, le sa'im, le jeûneur intelligent, c'est celui qui va s'imprégner de toutes ces valeurs du Ramadan, intérieur, extérieur, du Coran, mais également il va apprendre à se rapprocher des gens de façon durable, avoir une relation correcte avec toute personne qui nous entoure. Donc l'objectif de cette intervention, on pourrait le dire là maintenant, c'est mettre en avant ces valeurs universelles que l'islam nous enseigne et d'arriver à deux conclusions. La première conclusion, c'est que l'islam n'est pas uniquement une religion de culte. C'est pas uniquement la religion de la masjid, du musalla, du hajj, de la Kaaba et du Ramadan. Non, l'islam par excellence, c'est cette religion qui t'enseigne les valeurs universelles qui sont recherchées par toutes les cultures, toutes les philosophies et toutes les religions. N'importe quelle société qui s'organise, n'importe quel groupe de pensée qui est en train de se constituer, ils veulent le bien-être, oui ou non? Mais ils vont chercher le bien-être dans différentes choses, et souvent de façon erronée. Mais tout le monde recherche un bien-être et l'harmonie, être en paix avec soi-même et avec les autres. C'est ce que tout le monde recherche. Religion, civilisation, mouvement politique ou pensée philosophique. Mais l'islam nous apporte ça. Deuxièmement, on doit retenir que ça c'est une parenthèse, et que ces valeurs qu'on va en parler, ça ne se limite pas à des thèses. Comme on dit, c'est pas juste quand il y a des problèmes qu'on parle de ça. Ça fait partie de la foi, et ça fait partie des premiers versets du Coran, et également son application, on le voit dans la société de Madina. Quand ça m'arrive à Madina, comment est-ce qu'il organise, vous savez, comme le Mohammed dit tout à l'heure, basé sur la fraternité, la solidarité, le partage, ainsi de suite, le bon vivre ensemble, ces qualités qu'on va énumérer, on les retrouve en pratique, en application de cette société. C'est ce qu'on appelle la société exemplaire, où il y avait les qualités qu'Allah recherche pour chaque homme, on les a tous, sans exception, toutes retrouvées dans la société de Al-Madina Al-Munawwara, du vivant du Prophète sallam. Tant que le prophète était vivant, il y avait ces qualités qui étaient là, permanentes, de façon parfaite et irréprochable. Et même s'il y avait des erreurs, des manquements, ces personnes savaient immédiatement retourner vers Allah Azza wa Jalla. Une personne qui avait accompli un péché grave à l'époque du prophète. Et ces sahabas, ils ont commencé à insulter la personne. Comment est-ce qu'il a pu faire ça, qu'elle soit maudite? Le prophète m'a dit que dis pas ça. Il a dit cette personne, certes, a commis un péché majeur, mais il a demandé tellement pardon à Allah, que si le pardon qu'elle a demandé était distribué pour les Ahlul Madina, la Roufira. Si son pardon était distribué pour chaque individu de Ahlul Madina, tout le monde aurait obtenu le pardon d'Allah, tellement le pardon qu'il a demandé, c'était énorme et Allah a accepté. Des personnes qui parfois se trompaient, mais revenaient rapidement et sincèrement vers Allah Azza wa Jal. C'était la société spirituellement exemplaire. Deuxième point qu'on essaie de mettre en avant, c'est la compatibilité de l'islam avec toutes les sociétés, toutes les époques, sans qu'il n'y ait jamais, et ça c'est un thème qu'on doit éradiquer, de choc de culture. Et là on aura des gens en face de nous, on ne rentre pas dans les débats politiques, mais qui vont essayer à chaque fois de mettre ça en avant, le choc des civilisations et le choc des cultures. Il n'y a pas de choc de civilisation, il n'y a pas de choc de culture, il y a une pratique éclairée, intelligente, dans le contexte, où on voit les objectifs de la religion, et on se rend compte que, subhanallah, si Allah Rabbul Izzah a décrété dans sa clémence que c'est le dîn, la religion qui va perdurer le plus longtemps de l'espace-temps, depuis le Nubuwa, ça remonte à peu près 15 siècles, jusqu'à quand? Jusqu'au Qiyam, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'autre côté, jusqu'au Qiyam, il n'y a pas une religion qui va perdurer aussi longtemps dans l'histoire des religions. Ça veut dire qu'Allah Rabbul Izzah a donné à cette religion les sifat, les qualités pour qu'elle puisse être appliquée en l'an 6, en l'an 7, on parle du calendrier grégorien, au 20e siècle, au 22e siècle, quelle que soit l'époque, on peut le mettre en pratique. Si à un moment donné, la pratique devenait difficile ou impossible, ça voudrait dire qu'Allah nous a donné une religion qui n'est pas facile, et ce n'est pas le cas. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُ. Allah n'a pas de, en ce sens, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de choses impossibles dans la religion. Au contraire, c'est une religion de facilité. Et deuxièmement, si Allah décrétait qu'il n'y a pas de limite géographique ni culturelle Pour l'islam, ça veut bien dire que cette religion, elle peut être appliquée dans la péninsule arabe, en Occident, en Orient, en Asie, en Afrique, même en combinant avec n'importe quelle autre culture intérieure propre au peuple, aux nations, aux villageois. C'est une religion qui trouvera sa place et qui va se concorder, parce que c'est la religion d'Allah qui a été révélée à l'yom akmaltu lakum dinakum, une religion qui est parfaite et qui est parachevée et qui répond aux besoins de tout le monde. En revenant de Taïf, lorsqu'il a vu les gens qui l'ont pas accepté, qui l'ont chassé, qui l'ont agressé, il a dit, je jure par Allah que ce din va atteindre toute région du monde, là où le soleil se lève et là où il se couche. Mouchriquine disent quoi? Qu'est-ce que tu dis, ya Muhammad? Taif, aqrabu an-nas ilayna. Il n'y a pas plus proche que Taif comme endroit habité de la Mecque. 100 kilomètres à peu près. Eux, ils t'ont pas écouté. Tu parles de l'Occident, de l'Orient, du Levant, du Couchant. De quoi tu parles? Le prophète savait que ce din, c'est din ou haqq, religion de vérité. Et quand ce din touche un cœur, ça illumine ce cœur. Et c'est asbab de hidayah. Et ce din va perdurer jusqu'à la fin des temps. Et il faut le pratiquer de façon correcte, intelligente, en fonction du wahi. Et il n'y aura aucun choc de culture ni de civilisation, parce que cette religion, elle est porteur, elle porte toutes les valeurs que les sociétés ont besoin. Sur le plan de civisme, sur le plan d'ouverture et d'humanisme, tout ce que les gens ont cherché, on le retrouve dans la dernière des religions d'Allah Azza wa Jal. Et les différents points, donc il y a des valeurs universelles qui sont présentes dans tous les types de relations humaines. Si on passe en revue les cultures, les civilisations, les philosophies, les mouvements politiques et les religions, on trouve 3 ou 4 points, ou 5, on peut amener à 6, peu importe, c'est des points sur lesquels les hommes ont toujours travaillé. Premièrement, la conscience de soi. Et notre rapport avec nous-mêmes. Premier point. Et si vous analysez les ouvrages philosophiques, ils ont passé beaucoup de temps sur le thème la conscience de soi. Ceux qui étaient encore en terminale il y a 5, 6 ans ou 10 ans se rappellent peut-être de ces heures de galère, la conscience de soi. Deuxième point, que toutes les civilisations et cultures, philosophie et politique recherchent, parfaire la relation de proximité. C'est-à-dire avec les proches. Troisièmement, la relation entre les générations. Quatrièmement, entre les gens qui ont la même idéologie. Et pour nous, on va parler de co-religionnaires. Et la relation avec l'extérieur, l'autre. Et pour nous, on va appeler avec les autres croyances. Et parmi ces valeurs universelles, via chaque point qu'on va citer, on doit les retrouver dans ces 4 axes ou 5 axes qu'on vient de citer. L'amour, compassion, le pardon, la générosité, l'égalité entre les gens, la liberté, la solidarité, la fraternité, mettez la main sur le cœur quand on dit tout ça, l'humanisme, la justice, chacune de ces valeurs doit avoir sa place dans les 5 types de relations qu'on a citées, la conscience de soi, la relation avec les autres, entre les générations, de proximité et avec l'autre. On doit retrouver toutes ces valeurs. Ça, c'est un mouvement qui est profondément humain et rempli de civisme et d'humanisme. Et ces valeurs sont omniprésentes dans l'islam. Et comme on dit, ça constitue même les bases des valeurs islamiques dès les premiers jours de l'islam. Et on a cité l'exemple à travers la société de Madina. Alors, premier point qu'on va aborder, il nous reste à peu près, on a jusqu'à midi normalement, non? À peu près 10 ou 15 minutes, Inch'Allah. Parce qu'on a commencé un peu tard, je m'excuse. Premier point, la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi? C'est définir ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Où est-ce que tu vas? Quel est l'objectif de ta vie? Quelle est la finalité? Et pourquoi est-ce que je dois agir? Et comment dois-je agir? Là, vous devez, mais pourquoi il dit tout ça? Ça a l'air un peu basique. Oui, c'est basique. Mais là, c'est comme si on se remet reset. On se remet à zéro. Et que on est un être humain qui est dans la première phase de réflexion, qui a besoin de se comprendre. De comprendre quel est son but sur la terre. Et là, on va voir Descartes. On va voir Kant, on va voir Hegel, on va voir ces grands philosophes, que ce soit des Grecs, là, il n'y avait pas de Grecs dedans, que ce soit des Allemands, que ce soit des Français, que ce soit du siècle des Lumières ou plus proche de nous, ils vont se débattre, j'allais dire ils vont faire des débats, c'est pas des débats, ils vont essayer de se débattre, ils vont patauger sur le plan psychologique, on va le voir après plus tard avec Freud et ainsi de suite, pour essayer de comprendre le sens du moi. Et Descartes appelle ça la découverte du cogito. Hegel le dit, je le dis une fois, je ne le dirai plus, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu'il est poussé à se trouver lui-même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui était, dans ce qui lui est, pardon, donné immédiatement, et dans ce qui s'offre à lui extérieurement. Ça, on le retrouve dans l'esthétique, un ouvrage basique, étudié par tous les lycéens, et c'est un ouvrage brillant. Ça peut choquer de dire que c'est brillant. Moi, j'ai une grande admiration pour ces philosophes, parce qu'ils ont poussé la réflexion humaine à son paroxysme. C'est-à-dire, si tu veux voir quelqu'un qui réfléchit, vois les philosophes, vois Descartes, vois Rousseau, vois Kant. Mais ne regarde pas le résultat, mais vois l'exercice spirituel. Vois la gymnastique spirituelle qui est tout simplement admirable. Vois le potentiel qu'Allah a accordé à l'homme de réfléchir, de méditer. Mais la différence, c'est que dans leur parcours philosophique, ils n'ont pas conscience du divin. Ce qui fait que cet exercice qui est énorme, qui peut s'apparenter à tafakkur, à la méditation, par rapport au fait qu'il n'y avait pas de iman, le résultat est limité à la faiblesse humaine. Au naqs insani. Le résultat, le natija est limité à la faiblesse humaine, même si le déploiement d'énergie est exceptionnel. Et on n'a peut-être pas 10% d'énergie psychologique de ces gens-là, intellectuels, mais ils ont fait quelque chose d'énorme, mais il n'y avait pas iman billah, donc ça n'aboutit à rien. Ça aboutit à je suis donc, je pense donc, c'est-à-dire je mange donc, je suis, excusez-moi, je pense donc, je suis, ça s'arrête à là. Ils sont même pas capables de dire qu'est-ce qui bloque tous les philosophes. Je pense que quelqu'un fait elle ici. Quel est le point de blocage de tous les philosophes, tout mouvement? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Les scientifiques sont scotchés face à cette question. Les philosophes, drapeau blanc. Ils montrent leurs limites. Ça, c'est la limite du cerveau humain. Et pas un cerveau humain des gens gavés de télé comme nous. C'est un cerveau humain de personnes issues du siècle des Lumières, c'est-à-dire les gens d'une intelligence exceptionnelle. La limite de chaque philosophe, ça dit, je suis admiratif de ces hommes, ils ont poussé au maximum la machine, et leur limite, c'était pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et moi, je sais, moi. Toi, tu sais, tout le monde le sait. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Parce qu'Allah dit au Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ. Et ils savaient pas qu'il y avait un khaliq. Ils savaient qu'on est là. Il savait que je suis. Il n'a jamais dit que j'ai été créé. Je suis. Et nous, on sait que nous sommes makhlouq. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On a le sens de notre existence qui est al-khalq, la création. Et on a al-ta'li, l'objectif qui est لِيَعْبُدُونَ, pour faire son adoration. En un verset du Coran, on a ramassé tous ces mouvements, toutes ces lumières qui ont essayé de cogiter, de méditer, parce qu'Allah nous a donné al-basira. Allahu Akbar. Ce ni'ma de la foi, ça te permet d'avoir un raccourci, de voir le haq, alors que des gens se sont battus pendant des siècles, toute leur vie, pour trouver la vérité. Ils n'ont pas eu ce souffle de lumière. Et nous, on n'a pas ce potentiel, mais Allah t'a fait naître avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui répond à tout ça. Ou durant ta vie, tu as vu la ilaha illallah, et ça te permet de revenir. C'est pour ça qu'on a dit en introduction, c'est le plus beau cadeau qu'Allah nous a donné. Et le croyant donc qui développe la conscience de soi à travers les textes de son créateur, mais il va comprendre le but de sa vie. Il va comprendre ce que lui est demandé. Et quand tu as franchi cette étape, tant que tu n'as pas intégré le sens du moi, qu'est-ce que je fais sur cette terre, tu ne peux pas passer à l'étape suivante qui est de faire du bien pour les autres. Tant que tu n'as pas compris quel est ton rôle de ce dunya. Et à partir du moment où tu as compris le sens de ma khalaqtu al-jinna wa al-insa illa liya'budun, l'homme peut avancer sereinement dans la vie et à cet instant il est capable de faire un pas vers l'autre. Et on pourrait résumer la conscience de soi et l'objectif de notre vie à travers trois versets qui donnent ton identité, ton tracé et l'aboutissement. Ma khalaqtu al-jinna wa al-insa illa liya'budun, c'est ce qu'on a dit. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, connaissez tout à l'heure l'adoration d'Allah jusqu'à la mort. Tu vois l'objectif, c'est quoi? Continue, arrive là, ne t'arrête jamais, ne pose jamais, ne décolle jamais ce front du sol. Fais-le pour Allah, parce que si l'ange de la mort reprend ton âme, alors que tu t'es prosterné jusqu'au dernier instant de ta vie, tu es parmi les faizin. Et wattaqu yawman turja'un fihi ilallah. Et ça dépasse le raisonnement humain. C'est quand la vie est terminée, tu retournes auprès d'Allah. Wallahi l'azim, celui qui oriente sa vie en fonction de ces trois versets, il a tout compris. Il a tout intégré. Et c'est son cœur qui s'ouvre à la vie. C'est plus ses yeux. Il ne voit plus la vie avec ses sens. Il voit la vie avec son cœur. Dans Hadith Qudsi, Allah Rabbul Izzah dit qu'à un moment donné, le croyant atteint ce degré par les bonnes actions. Je deviens les yeux par lesquels il voit, les oreilles par lesquelles il entend. C'est-à-dire que Allah te donne la lumière de vérité. Le Hdina Sirat al-Mustaqim, tu y es. Ce Sirat al-Mustaqim, et avec espoir que le jour de Qiyamah, tu es ressuscité avec les gens qui, comme c'est dit de Tabarak al-Ladhi, qui continuent de ce Sirat al-Mustaqim jusqu'à l'accès au paradis. Et comprenons, deuxième point, qu'on ne pourra jamais aimer son prochain tant qu'on n'est pas en paix avec soi-même et qu'on n'a pas compris notre rôle sur la terre. Si tu n'es pas clean avec toi-même, tu n'as pas compris le but de ta vie, tu ne pourras pas aimer ton prochain et t'ouvrir aux autres. La conscience de soi donc, mes chers frères et sœurs, doit se reposer sur le sentiment de devoir envers notre Seigneur. Ça doit transiter par le lien de Ubudiyya. Parce que si dans la conscience de soi, dans la recherche de ton identité, il n'y a pas de spiritualité, dans ce cas, le rapport que tu vas engager avec ton prochain sera également dénué de spiritualité. Si dans ta conscience de soi, tu n'as pas compris ton lien avec Allah, ben quand tu vas vers ton prochain, est-ce que tu pourras axer cette relation avec ton prochain? Est-ce que entre les deux, le pont qui va t'unir à toi et le prochain, est-ce que c'est l'amour d'Allah, mais ce sera les sentiments et ce qu'il y a dans le cœur? Ce sera juste ce qui est personnel à l'homme. Et ça ne peut pas durer. Si entre toi et ton prochain, cette relation n'est pas basée sur l'amour d'Allah, sur cette relation de Ubudiyya, dans ce cas, ce ne sera jamais une relation sincère et qui portera ses fruits. Et on donnera un seul exemple. Al-Hubbu fillah. Aimer son prochain en Allah, parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyam, Allah maj'alna minhum, les gens qui s'aiment pour Allah. C'est énorme ça, aimer, s'aimer pour Allah. C'est pas donné à tout le monde. Celui qui a pu le faire, c'est vraiment quelqu'un qui a tout compris, qui a eu la lumière du cœur. Man tawadha'a lillah. Celui qui va s'humilier pour Allah. Entre quelqu'un qui va se rabaisser, excuse-moi et tout, et quelqu'un qui va dire, je fais un pas, j'ai raison de cette histoire entre moi et mon beau-frère, entre moi et mon cousin, moi et mon tonton, je connais, j'ai raison, il a tort. Mais on va garder les liens de famille. Même si il a tort à 100%, je lui dis que je suis désolé, j'ai peut-être mal compris, j'ai mal agi, tu as 20 ans de plus que moi, c'est la jeunesse, fais maf. Tu sais que c'est pas ça, mais tu dis ça c'est pour Allah. Parce que s'il revient, il accepte mon pardon et tout, ben je le fais pour Allah. Man tawadha'a lillah. Si tu le fais pour Allah, les relations avec les autres, tu peux le faire. Mais si tu le fais pour toi, qui va s'humilier devant quelqu'un alors qu'il n'y a pas de crainte d'Allah et d'amour d'Allah? C'est pas possible. Un autre exemple. Sul man qata'ak dans le hadith. Garde les relations. Ben voilà, c'est l'exemple qu'on a donné. Renoue les liens avec les membres de ta famille qui ne veulent plus de toi. Tu as un cousin, un tonton, depuis 20 ans, il ne veut plus voir. Il habite d'aller au Saint-Joseph. J'ai rien contre Saint-Joseph, hein. Dans tel coin perdu et tout, Saint-Joseph n'est pas un coin perdu. J'ai des amis là-bas. S'il habite dans tel endroit, ainsi de suite, il ne te voit plus, il a coupé le pont. Complètement. Et quand tu fais un pas, tu dis non, viens pas mailler. Mais il habite les Roms, il est à mon cabri, mais il est tranquille, mais il veut plus voir cette tête. Il veut plus de la famille, vous avez trop fait de le passer. Dada, votre grand-père à l'époque avait ça. Il y a des cas, wallah, il y a énormément de cas comme ça, des familles musulmanes, principalement réunionnaises, peut-être partout aussi. Mais si tu te bases uniquement sur les relations, dis comment il se comporte comme un sauvage avec moi, il me jette, il me raccroche le nez, jamais tu vas faire un pas vers lui. Mais si entre toi et lui, quand tu construis ce pont-là, c'est fait pour Allah, tu vas faire le lien entre toi et l'homme de proximité et celui qui n'a pas la foi et il arrête les alis, tu le fais pour Allah. Quand tu as quelqu'un qui passe son temps à insulter l'islam, parler de la religion, ou quelqu'un qui ne croit pas, il se moque de sa religion, tu te dis que, ah, ou dis ça sur ma religion, comment tu vas te rapprocher de lui? Un sourire, tu ne pourras pas afficher devant cette personne. Mais si tu le fais pour Allah, tu le feras avec espoir de guider de Hidayah. Donc, la conscience de soi doit être basée sur la spiritualité, sur le Ubudiyya. Quand tu l'as intégré, tu pourras mettre cette spiritualité dans la relation avec les autres. C'est un petit peu technique ça. Est-ce que plus ou moins c'est compris? C'est un peu complexe, mais qu'Allah me donne la possibilité de l'intégrer, de comprendre. L'étape suivante, maintenant que j'ai compris mon identité qui est basée sur la spiritualité, maintenant je comprends ma mission sur terre. Et que ma mission, c'est pas uniquement le ibadah, prier, jeûner et faire tawaf et lire Quran. Non. Là, tu dois prendre comme base deux hadiths. Inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. C'est-à-dire, j'ai été envoyé pour parfaire, pour parachever le bon comportement. C'est-à-dire que tu veux être le bon musulman, tu veux concrétiser la mission prophétique, sois bon et adopte le meilleur des akhlaq avec tout le monde. Parce que ça faisait partie de la mission prophétique. Et là, tu te remets en cause. Je croyais que il fallait juste faire namaz et mettre les 5 pions en application. Le prophète te dit que non, j'ai été envoyé pour parfaire et parachever le bon comportement. Avec qui? Avec tout le monde. Le prophète a fréquenté, comme on l'a dit, les polythéistes, les musulmans, les hypocrites aussi, les yahoud, nasara, majous, les gens qui ne croyaient en rien. Et il y a eu le comportement noble et prophétique. Ça ouvre un petit peu l'esprit. Deuxième hadith, afqalu shay'in fil mizan, en ce sens, al-khuluq al-hasan. La chose qui pèsera le plus lourd de la balance, le jour des comptes, al-mizan. Et al-mizan, ça fait partie des étapes à propos desquelles le prophète sallam a dit que dans ces moments-là, la ya'rifu ahadun ahada, ou comme a dit le prophète sallam, dans ces instants-là, personne ne connaîtra son prochain. Et personne ne voudra faire un pas vers son prochain. Que personne ne vienne me voir en ce jour pour dire que j'ai besoin de bonne action, parce que personne ne donnera à son prochain. Même tes enfants, tu ne voudras pas les voir le jour de Qiyam. Et dans le face au Mizan, il y a même des versets qui sont plus durs, que l'homme serait prêt à donner sa famille, ses proches, à les sacrifier le jour de Qiyam pour être sauvé. C'est-à-dire que tu te déshumanises. Jour de Qiyama, tu te mets en mode survie, comme quelqu'un en train de se noyer, et on lui tend une main. Tu veux t'agripper, même si tu fais tomber la personne, si quelqu'un s'est déjà noyé, si vous êtes là, ce que ça c'est, vous n'êtes pas noyé complètement, pour essayer de remettre la tête hors de l'eau, tu peux risquer la vie de celui qui te sauve, oui ou non? C'est comme ça que ça se fait. C'est pour ça qu'il dit que si tu veux sauver quelqu'un, soit tu es un expert en natation, tu sais t'en sortir, sauvetage, sinon ne le fais pas, parce que c'est pas lui qui meurt, c'est là. C'est comme ça que ça se passe. Jour de Qiyama, c'est pas l'instinct de survie de ce dunia, c'est l'instinct de survie de l'éternité du akhira. L'homme a vu le Jahannam, parmi les étapes de là, la présentation de l'enfer, et les gens sont saisis, et personne ne veut aller là-bas. S'il faut donner ma femme, mes parents et mes enfants, je donne, le verset ne me revient pas, le verset va dans ce sens, hein, on se souviendra plus tard, Inch'Allah. L'homme est prêt à donner au fidia à ses proches pour être protégé de Qiyama. Et donc, quand tu dis la balance, il n'y a rien de plus crucial, de plus important. Et là, tu vois sur le hadith qu'il n'y a rien qui pèsera plus lourd de la balance que al-khuluqul hasan, que le bon comportement. Tu t'es dit que, ah, mais je ne savais pas ça. Je croyais que c'était prière, c'est bien se couvrir, le vêtement sunnah, et ainsi de suite. Oui, tout ça, ça fait partie de l'ossature de ton dîn. Mais le bon comportement avec les gens, ça fait partie des choses qui vont te sauver le jour de Qiyam. Et là, tu comprends, tu réalises que notre dîn, c'est une religion d'ouverture, ouverture envers les gens. Troisième point, tu as compris cette étape. Troisième étape de la conscience de soi, sur le plan spirituel. Maintenant, tu vas intégrer les objectifs de notre passage sur terre. Je vais aller un peu plus vite, sinon on ne terminera pas midi. Ibadah, tarbiya, da'wa. L'adoration d'Allah, éduquer. Tu te maries, tu éduques, tu amènes ta femme dans le droit chemin, tu éduques tes enfants pour qu'ils deviennent de pieux musulmans, pour qu'un jour ils deviennent un papa, un époux vertueux et un père qui donne une bonne éducation pour transmettre la chaîne de narration de Iman de génération en génération. Ça fait partie de notre mission sur la terre. Ibadah, tarbiya et da'wa. L'invitation, mais là c'est plus général, vers l'ensemble des gens. Tu as intégré ces trois objectifs, et ça les philosophes ils peuvent pas arriver à là parce qu'il n'y a pas de spiritualité malheureusement dès le départ. Mais toi tu avances sur des bases qui sont concrètes parce qu'elles sont issues de la révélation de ton Seigneur. Quatrième point, tu réalises que ton salut, ta protection, c'est dans l'obéissance d'Allah. Ihfazillah yahfazuk. Protège le dîne d'Allah. Sois correct avec ton Seigneur. Obéis ses ordres, Allah te protège. Ihfazillah tajidhu tujahak. Tu trouveras Allah avec toi tout le temps. Sur ton chemin, en ce sens, devant toi. Allah va te guider. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Tu as besoin de quelque chose, lève les mains, demande Allah. Tu es dans une situation de danger. Tu as un problème. Le docteur t'annonce qu'il y a un problème. Il y a un cancer, il y a une tumeur qui est en train de prendre forme. On ne sait pas encore si c'est bénigne ou maligne ou ça va s'empirer. Tu es dans la détresse. Aucun médecin ne peut te donner la santé. Lève tes mains, demande Allah Azza wa Jal. Ça c'est tout simplement magique ça. Ça c'est des portes qui restent ouvertes tout le temps. Quand les portes des créatures se ferment, cette porte elle reste toujours ouverte. Ça te fait comprendre l'essence de chaque homme et sa relation. Comment est-ce que le moi prend une dimension, une ampleur quand il y a la spiritualité, quand il y a la relation avec Allah, ça donne un sens à ta vie. Cinquième point, tu délimites ton rapport avec l'autre. Ne désobéis jamais à Allah pour faire plaisir à une personne. Parce que le prophète dit, wa'alam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yadhurruk wa 'ala an yanfa'uk, les deux thèmes du hadith, sache que c'est tout le monde qui se réunit pour te faire du mal ou pour t'apporter quelque chose. Ils ne te feront rien de plus ou de moins que ce qu'Allah a déjà décidé. C'est-à-dire, tout est dans les mains d'Allah. Tawakkal 'ala Allah. Trace ton chemin. Trace, avance. Tu obéis à Allah? Tu es sûr que tu es dans le droit chemin? Tu es en train de suivre la parole d'Allah, la parole de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam? Avance! Ne regarde pas ce que les gens vont dire, les critiques. Regarde rien. Parce que même s'ils te disent des choses, rien ne pourra t'atteindre si ce n'est ce qui a déjà été prédestiné par Allah. Et s'ils peuvent t'atteindre également, c'est une épreuve qu'Allah t'a prédestinée et ça va te permettre d'atteindre des grades que tu ne peux même pas atteindre par tes sujouds et rukous et tes doigts. Hada. Et sixième point, accepter sa situation, s'accepter soi-même. Chez les... je sais pas comment on appelle, les témoins de Jéhovah, ils mettent ça souvent sur la voiture. Moi, ils disaient une phrase, hein. Je suis ce que je suis. On voit ça parfois sur les voitures. Jésus la porte, mais après il y a également, je suis ce que je suis. Ok, je suis ce que je suis. Nous aussi, on a ça. L'acceptation, al-iman bil qada wa al-qadr. Sixième pilier de la foi, quand tu acceptes tout ce qu'Allah t'a prédestiné, tu as une sérénité. tu vis ta vie avec une telle confiance en Allah que tu sais pertinemment que tu n'obtiendras pas plus que ce qui t'a été prédestiné et que tu pourras l'obtenir par les efforts qu'Allah a écrits pour toi. Travaille, avance et tu obtiendras que ce qu'Allah t'a donné. Et si on veut raccourcir le programme pour aller plus vite, pour aller à la fin, celui qui accepte sa vie, c'est-à-dire qui accepte ce qu'Allah a destiné pour lui, est-ce que ce sera un homme jaloux? Non. Est-ce que son cœur sera rempli un jour de cupidité? Il veut gagner plus que ce qu'il a encore. Jamais de la vie. Est-ce qu'il aura envie de nuire à son prochain? Lui, il a telle chose, j'ai envie de le casser. Il a ouvert un magasin, il fait un chiffre d'affaires, ça tourne. Moi, ça tourne pas. On va essayer d'aller voir quelqu'un là pour arranger ça et tout, pour qu'il... Jamais! Parce que tu sais que ce qu'il a, ça c'est son rizq. Ce que j'ai, c'est mon rizq. Allah a tout donné. Est-ce que je vais me rebeller contre la décision d'Allah? C'est que quand tu as développé l'iman bil qada wa al qadr, tu apprends à accepter la décision d'Allah et de cette façon, tu t'acceptes toi-même. Et tu peux avancer sereinement. Tu n'es pas comme cet homme qui est angoissé. J'aurais dû faire ça, fallait pas. Ah, peut-être que, il n'y a pas un t'angoisse pas, calme, keep calm. Tout ce qui arrive, c'est Allah qui a décidé. Fais doua, demande le khair, fais ce que tu peux, au mieux. Et quand tu as pris ta décision, fa'idha azam tafa, tawakkal ala Allah. Mets tout dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Ça te donne la stabilité psychologique. Ça te permet de développer une conscience de soi posée et tu deviens un individu posé, j'allais dire, droit dans tes bottes. Et tu avances comme Allah te l'a demandé d'avancer et avec l'ouverture qu'on a cité tout à l'heure dans les points 2, 3, 4 et 5, l'ouverture envers les autres, les qualités que notre dîn nous a enseignées. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on peut s'arrêter à là, mais si vous m'accordez encore 5 minutes, On peut engager le deuxième point et on va juste dire les unwan, les titres. Deuxième point concernant le civisme et les valeurs universelles qu'on retrouve dans tous les courants philosophiques, politiques, dans toutes les civilisations et qu'on a de notre religion, après la conscience de soi, notre rapport avec l'autre. Quand tu as fini avec toi, c'est l'autre. Et les philosophes, ils ont consacré, mashallah, des volumes dans les relations de l'homme avec son prochain. Et cette relation avec l'autre, bien sûr, elle doit être régie sur les bases du Coran pour rechercher le contentement d'Allah. Et si tu as pu parfaire ta relation avec l'autre, ça va contribuer à apporter l'équilibre dans les rapports humains. Et donc l'équilibre dans la société, barakallahu fik. Si tu arrives à régir les rapports avec ta famille, ta belle famille, c'est plus dur, avec tes voisins, tes proches, les personnes éloignées, les voisins, et ainsi de suite, et que tout le monde agit de la même façon, la société, est-ce qu'elle va bien? Elle va pas bien? Elle va très bien. Tout le monde prend des précautions pour ne pas vexer, ne pas froisser, ne pas frustrer, ne pas agresser l'autre, respecter ses droits, lui donner tout l'amour qu'on peut. Si chacun agissait avec autant de précautions, de pincettes, ben tout le monde se porterait bien, la société se porterait bien. Il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait plus de viol, il n'y aurait plus de vol, il n'y aurait plus de dégradation de biens, il n'y aurait plus d'insultes, il n'y aurait plus de riba, il n'y aurait plus de botane, il n'y aurait plus tout ça. Tout démarre sur notre rapport avec l'autre, s'il est basé sur la spiritualité, sur l'amour et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, dans ce rapport avec l'autre, le respect de la dignité de l'homme. Déclaration des droits universels de l'homme et du citoyen. En quelle année? 1789, vous êtes sûr? Très bien. Le respect de l'homme. Allah Rabbi Azza wa Jalla, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Dans d'autres versets, wa laqad karramna bani Adam. On respecte l'être humain, qui est ashraful makhlouqat. Tu n'as pas le droit de frapper, d'insulter, de manquer de respect, de voler ses biens, de parler sur lui, de porter atteinte à sa famille, qu'il soit croyant ou non. De le tafsir de Yahya al-Ladina Manu. Aufu bil'uqud. Respect, en ce sens, respectez vos engagements. Les moufassins disent que c'est avec tout le monde. Tu as un engagement, une promesse avec un musulman, tu le respectes. Avec un juif, un chrétien, quelqu'un qui est athée, qui est bouddhiste, tu le respectes parce que c'est un être humain. Parole d'un être humain, ça c'est sacré. Le riba, la médisance est interdite même quand ça concerne des gens qui n'ont pas la ilaha illallah. Mohammed, tu t'adresses à un homme que le prophète dit ittaqi da'wat al-mazlum. Attention, ne fais pas du mal aux gens. Parce que si l'opprimé lève ses mains et te maudit, Allah accepte. Et l'opprimé c'est qui? C'est l'opprimé musulman, c'est l'opprimé chrétien, l'opprimé catholique, juif, bouddhiste, et ainsi de suite, qui ne croit pas. Celui qui t'insulte aussi, si tu l'as opprimé alors qu'il ne le méritait pas, il te maudit, la malédiction est acceptée parce que c'est une relation de créature à créature. Ça, c'est le sens profond de insania, d'humanisme, de le rapport avec l'homme et le respect de la dignité de l'homme. D'ailleurs, si on avait le temps, on aurait vu les textes qui parlent de la gravité du meurtre. La première chose qui sera jugée de Qiyama, c'est Ad-Dima, l'homme qui a été tué injustement. Tous ces attentats, Belgique, Paris, l'autre ville là, hein, où il y a eu des policiers tués, je me souviens pas comment ça s'appelle, et ainsi de suite, Madrid, New York, tous ces, même ces homosexuels qui ont été tués. Vous croyez que par rapport à leur pratique homosexuelle, leur sang, mérité d'être versé de cette façon. Celui qui dit que lui, il méritait la mort, qu'il aille se ressourcer spirituellement. Qu'il prenne un Coran, qu'il prenne des livres de hadith, qu'il apprend sa religion. Mais sorte là, s'il vous plaît. Mais qu'il ne reste pas à côté de nous. Et qu'il ne vient pas pourrir notre religion. Moi, j'appelle ces gens-là, ce sont les hooligans de l'islam. C'est les gens qui donnent la pire des images et qui va griller les acquis que nous avons développés dans tous les pays. Ce que nous avons à La Réunion, le bien-être ensemble, ça peut être ébranlé par ce genre de comportement d'abrutis et d'imbéciles qui n'ont aucune conscience spirituelle, mais ils veulent juste mettre en application certains points qui ont des fins, des finalités qui ne sont aucunement spirituelles. Donc la vie sacrée de l'homme, subhanallah. Deuxième point, on essaie d'avancer un petit peu plus vite. Militer, ça se donne un rapport avec l'autre, pour la liberté. Ça fait partie des points essentiels de la République française, la liberté, égalité, fraternité. La liberté, quand on parle de liberté, c'est la liberté physique. On n'a pas le temps, je m'excuse, on s'est un peu attardé au début, mais c'est nécessaire, on parle de spiritualité. Si on analyse tous les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en avant le fait d'affranchir les esclaves, avant que n'importe quelle culture se prononce pour l'abolition de l'esclavage, parce que ça faisait les affaires de tout le monde d'avoir des esclaves. Et le prophète, j'ai amené les hadiths, mais je peux pas vous les citer, quand le prophète dit que c'est pour celui qui délivre cet esclave croyant, pour chaque articulation de l'esclave que tu as franchi, c'est une articulation que tu te libères toi-même de l'enfer. Énormément de textes qui vont de ce sens. Le prophète me demande à Abu Bakr d'achète Bilal, il libère Bilal. Le prophète, il va considérer Hazrat Bilal comme un homme exceptionnel. Premier adhan de l'histoire de l'islam à Mecca et à Madina, un homme noir, éthiopien, abyssinien, descendant d'esclaves, qui n'avait aucune noblesse parmi les arabes. Le prophète le met au sommet de la Kaaba pour donner l'adhan. Est-ce qu'il n'y a pas là les plus belles valeurs de l'histoire des civilisations? Est-ce qu'il n'y a pas là le message d'amour qu'Allah donne à cette Ummah? Qui sommes-nous pour aller à l'encontre de tout ça? Qui suis-je, moi, musulman, arabe, prawala, ou peu importe comment on s'appelle, pour considérer le Comorien qui n'est pas comme nous, le Maoré, le Malgache, lui c'est un Mauricien, lui il sort d'Indonésie, lui c'est un musulman turc, et donc on va au Hajj, je ne parle pas que d'ici qu'on va au Hajj, je sais, j'ai travaillé avec des gens, quand ils voient les étrangers, ah ben ça c'est ben sud-africain, ça ben turc, ça ben sauvage, tu es qui pour juger les peuples? S'il n'y a pas plus grand verset qui prend l'ouverture vers les peuples, dites-moi lequel. Nous avons créé des peuples, des nations pour que vous appreniez à vous connaître. L'ouverture, l'amour universel, nous les avons tous ces points, ces textes dans le Coran. Liberté. Liberté psychologique également. Liberté de décider de ta vie. J'ai un commerce, j'ai des biens, c'est moi qui décide. C'est pas le imam qui va dire que tu dois donner cet argent. Personne. Je suis propriétaire. Liberté psychologique. Une femme se marie avec qui il veut. Dans l'islam, il n'y a pas de mariage forcé. Qu'on comprenne bien ça. Il n'y a pas de mariage forcé. C'est la femme qui décide avec qui elle a envie de vivre sa vie. Liberté spirituelle. La ikraha fid din. Tu peux pas écouter sur la gauche quelqu'un dit la ilaha illallah, je te tue. Ça, c'est les malades qui font ça. Liberté physique, liberté psychologique, liberté spirituelle. Point suivant, et là on va juste citer le titre, égalité. Autre valeur universelle qu'on retrouve partout et qu'il y a en priorité dans l'islam, considérer les hommes comme égaux. Et il y a les textes du Hajjatul Wada' et des versets magnifiques dans notre Coran et les hadiths. Qu'Allah ne regarde ni votre apparence, que le blanc n'est pas supérieur au blanc, l'arabe n'est pas supérieur au noir. À l'époque, chez les arabes, si tu n'as pas le sang Quraysh, tu n'es pas de telle tribu, viens pas mailler. Si tu es même si tu es arabe, mais la tribu qui est du côté de Najd là-bas, ou qui est du côté de Yambour, ou de telle région, ou du Yémen, ne vient même pas de nos assemblées, ton opinion ne compte pas. Tu es là, mais tu es un être qui bouge. Tu n'as aucune importance. C'était très important, ça, Adam, chez les arabes, chez les français aussi, quand on parlait de noblesse. D'accord? Du tiers état, ainsi de suite. Le tiers état vient pas mal écouter le noble, d'accord? Mais l'islam est venu pour aplatir tout ça. Pour ça, c'était un Quraysh, je voulais pas l'islam. Nous, le notable de Quraysh, tu veux, oh Mohammed, que je m'assoie à côté de Bilal, le noir? L'esclave? C'est pas possible. Mais l'islam te dit que c'est possible et que le prophète dit, oh Bilal, tu fais quoi comme action? J'entends les pas. Je t'entends marcher dans le djannat. Qu'est-ce que tu fais? Et Bilal dit qu'après chaque vuzou, je fais deux rakats. Le din a propulsé des gens qui n'existaient pas dans le jahiliya pour devenir des lumières et des étoiles. N'est-ce pas là la plus belle des idéologies? C'est le wahyum min Allah, c'est là la révélation d'Allah Azza wa Jal. Dans la prière, les gens s'alignent ensemble. Il n'y a pas de différence quand tu es en état d'ihram. Tout ça, c'est des ouvertures vers l'égalité parfaite entre les hommes. Quatrième point, la solidarité, la fraternité. On n'a pas besoin, je pense, de citer tous les hadiths qui parlent de l'aumône, l'importance de venir en aide à son prochain. Dans le ramadan, on le fait. Le fitra, je me limiterai au fitra. Quand tu donnes 10 euros, 15 euros, le jour jour de Eid, tu fais quoi? Tu permets à quelqu'un de pauvre d'acheter de la nourriture. Si toi tu vas manger un gâteau, je dis ça, hein, si toi tu vas manger un gros bavarois litchi le jour de Eid, parce que j'ai très envie de ça, je fais droit pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'on est au voisin, il pourra pas manger bavarois litchi? Si toi tu vas manger un curry langouste de Madagascar, hein, pas de pays asiatique, pourquoi est-ce que ton voisin n'aurait pas le droit? Est-ce que c'est ça la religion? Dans la mosquée, tout le monde est ensemble correct, et quand on sort de la mosquée, quand on va à la maison, ben chacun y retrouve son contexte. Le pauvre avec le pauvre qui retrouve avec son sandwich jeudi. C'est pas ça le dîme, ce serait une religion hypocrite. Tu donnes, tu permets à tout le monde de connaître, d'avoir un peu de dignité. L'objectif de la zakat. Pourquoi est-ce que la zakat, plutôt que d'envoyer à droite et à gauche, donne ta zakat ici même, combler tout ce qu'il y a comme différence entre les hommes. C'est une religion qui veut faire vivre les sociétés, qui veut bannir les différences pour que les hommes apprennent à s'accepter. Hada. Quand le prince arrive à Madina Munawwara, les muhajirines, ils sont pauvres. Ils ont laissé tout leur bien à Makka. Les muhajirines deviennent les frères des ansars. Avec cette société exemplaire, il n'y a eu ni SDF, ni chômage, ni personne, ni d'exclusion. Aujourd'hui, on parle de l'intégration. L'intégration, le prince l'a fait en un claquement de doigts. Tu es de Makka. Bienvenue. Tu es de Madina. Riyad, c'est ton frère. C'est bon? Oh, prophète d'Allah, on accepte. Il habite chez toi, il mange avec toi, et il travaille dans le champ avec toi, jusqu'à ce qu'il devienne autonome financièrement. Et quand quelqu'un n'a pas d'argent, n'a pas d'endroit où dormir, il dort, mais où? Ashab et Soufa, dans le Madina. Les femmes, je sais pas si elles peuvent voir, l'endroit surélevé dans le Masjid Nabawi. Personne ne dormait dans la rue à Al-Madina, Al-Munawwara. Personne ne mourait de faim, sauf quand il y avait la famille et que le prophète lui-même n'avait rien à manger. C'était une société de partage, d'ouverture. Chaque individu comptait. C'est le sens profond d'une saniya, d'humanisme. Il n'y a pas les gens qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Dans notre société, ne soyons pas stupides, ne soyons pas hypocrites. Il y a les gens qui comptent. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt. Ils sont là, voilà, ils sont allocataires, ils gagnent de l'argent à droite et à gauche. Mais pour la haute sphère, ces gens ne représentent de notre dîme, c'est pas comme ça. Chaque homme avait une importance et il n'y a pas eu une personne qui dormait dans la rue, dans la société Al-Madina. C'était vraiment, comme on dit, la société exemplaire. Donc ça, c'est en rapport avec l'humanité, avec la fraternité plutôt. Ensuite, cinquième point, l'amour universel. Donc, il y a la notion de rahma. On citera sur le hadith du prophète, il dit que irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Vous voulez qu'Allah ait pitié de vous, ayez pitié des gens. Ayez pitié de ta femme. Ayez pitié de tes parents. Ayez pitié de tes enfants. Ayez pitié de ton employé. Permettez-moi de passer un message, le jour de Eid. Il y a beaucoup de musulmans qui travaillent dans les commerces. Ils n'obtiennent pas un jour de congé parce que c'est Eid et que le patron veut faire... Ça, c'est haram. Je ne dis pas que c'est haram, mais intérieurement, je le pense. Comment est-ce que tu peux faire travailler un employé le jour de Eid? Il ne peut pas passer une journée avec sa femme et ses enfants. Haram, alaik. Il n'y a rien de, il y a pas d'amour de ton cœur. Cet employé qui est musulman, il aimerait être avec sa femme et ses enfants. Tu dis que non, au commerce, il ne tourne pas. Travaille dans un magasin. Il n'y avait pas ça avant. Il y a 10 ans là, sortez de la masse d'air, il n'y a pas un magasin musulman, un magasin arabe qui est ouvert. Tout est fermé. On laisse les employés passer la journée de fête. Et on sait que Allah donne barakat. Aujourd'hui, on n'a pas gagné le 2000 euros prévu. Allah donne l'ibad min Allah. Le jour, on laisse ouvert et il n'y a plus de baraka. On fait ce genre de volume sur nos employés. Voyez le juste retour des choses. On doit faire très attention de la compassion. Être compatissant envers notre prochain. Vous avez de la compassion pour votre prochain. Yarhamukum man fis sama, Allah aura de la compassion pour vous. Et de façon plus précise, il y a des textes, je ne vais pas les citer. Tous les textes qui parlent de l'amour qu'on doit avoir pour les parents. Je ne veux pas les citer, on n'a pas le temps, ce serait un volume de ma part. Tous les textes qui vont dans ce sens. Il n'y a pas une religion ou un mouvement idéologique qui a insisté autant sur les relations avec les parents que notre religion. Vous voyez parfois les SPA, ils ne mettent pas des affiches partout, n'abandonnez pas les chiens. Ne laissez pas vos animaux domestiques comme ça, ainsi de suite. Vous avez déjà vu une affiche où on montre une vieille dame qui est en train de mourir dans l'hospice. Dit pourquoi tu as abandonné ta mère? Il n'y a pas ça. On va te rappeler les droits des animaux et tout, mais tes parents, ton papa, ta maman. Et ça, c'est des messages qu'on retrouve de façon intense dans le Coran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adore Allah uniquement, ne fais pas de shirk. Et ensuite, ihsan envers les parents. C'est-à-dire, si tu n'as pas réuni ça, t'as pas les conditions pour être le bon croyant. Ça, c'est uniquement une religion. Le respect de l'épouse, comment le prince a respecté sa femme? Subhanallah. Une de ses épouses qui reçoit un plat de nourriture. On connaît, on dit ça à tous les nikahs. L'épouse est jalouse. Elle prend le plat, elle jette devant le prince. Le prince ne dit rien. Imagine ça, le d'iftar. Riyad, je te parle. Imagine le d'iftar. Belle mère fait bon manger, ça, Riyad. Très bon manger. Sa maman a eu le prix de meilleur carrière poulet, conseil général. Eid, journée de Eid. Sa belle-mère fait... Imaginez que ce soir-là, son épouse n'a pas fait grand-chose. Elle a fait une assiette de pâtes. C'est un azab, ça, hein, sur le pas de mandoua le matin. Une assiette de pâtes. Et ta maman, ta belle-maman va ça et ton épouse est tellement en colère que j'ai raté ma journée. Et là, il est content, hein, il prend le plat, il jette devant toi. Je dis que c'est pas vrai. Comment tu gaspilles la nourriture, tu ne me donnes pas mon droit, tu laisses pas les autres donner quelque chose, et suite. Quel être humain ici présent peut être patient? Le prophète l'a été. Il s'est baissé, il a ramassé la nourriture, il a ramassé les débris de l'assiette et il n'a pas dit un mot. Il a attendu que son épouse se calme parce que ça fait partie des traits de caractère d'une femme qui s'emporte. Ça c'est, Wallahi, je le dis, on ne le fait pas parfois, mais on a besoin de développer ça. Le respect de la femme, c'est dans le din. On en parlait, il y a des problèmes. Est-ce que le prophète a déjà frappé Aïcha, Khadija? Jamais le prophète n'a levé la main. Les gens qui étaient au sein du prophète disent que pour quelque chose qu'on a fait, le prophète n'a jamais dit pourquoi tu as fait ça. Pour quelque chose qu'on ne faisait pas, le prophète ne demandait jamais pourquoi tu n'as pas fait ça. Jamais le prophète n'a fait de reproche à quiconque parmi ses proches. Encore moins donc à ses épouses. Le respect du voisin. Le prophète dit que n'est pas un vrai croyant celui qui cause du tort à son voisin. Voisin musulman ou non musulman. Ça c'est vraiment ces valeurs essentielles, on les retrouve dans le dîn. Il y a des hadiths bien sûr à l'appui, mais vu le temps, on ne peut pas les citer. Les personnes de différentes confessions, ça on laissera ça pour Mouli Mohamed la prochaine fois. Permettez-moi de conclure sur un point. Les personnes qui vous détestent, les personnes qui vous veulent du mal, Hudaybiyah, dernier point, je promets, j'arrête. L'an 6 de l'Hégire, Sulh al-Hudaybiyah, le prophète arrive près de Makka, Uthman parlementé, les Quraysh dit, tu vous signez ce traité qui est profondément injuste et on verra. Ils signent ce traité. Les Sahaba, ils ne sont pas contents, le traité est injuste et déséquilibré. À la fin, qu'est-ce qui est écrit? Traité signé, le pacte est accepté. Mais vous reviendrez l'année prochaine. Ils n'ont pas vu la Kaaba depuis l'immigration. Ils meurent pour voir la Kaaba. Ils sont en état de haram. Imaginez, vous arrivez au terminal Hajj. Au moment de tamponner le visa, il vous dit que le visa n'est pas bon, vous retournez. Qu'est-ce que vous faites? Première chose, étrangler l'organisateur. Vous cassez l'avion, vous pétez un câble, comme il dit. Tu es à deux doigts, tu es en état de sacralisation, tu vas voir la Kaaba, on t'empêche d'entrer, on te dit retourne chez toi. C'est inacceptable. Et parce que nous, nous venons de loin, mais les Sahaba qui ont vécu à Makka, leur cœur était rempli d'amour pour Makka. Arrivé à Madinah, ils étaient tristes. Après, Allah a mis la tranquillité de leur cœur. Ils arrivent aux frontières de Makka, on les renvoie, revenez l'année prochaine. Difficile. Difficile à accepter. Au moment où ils acceptent, et ils voulaient même pas écouter le prophète sallam. À ce point. Et le prophète, il demande à son épouse, et là aussi l'épouse, Mashwara. Mes sahaba veulent pas m'écouter. On fait quoi? Ils sont tellement en colère. Il dit au prophète d'Allah, rase ta tête. Immole l'animal, et ils vont faire comme toi. Et le prophète l'a fait, pour montrer qu'on sort de l'état d'ihram. Et on retourne à Al-Madina. Et les sahaba l'ont suivi. Ils prennent le chemin du retour, qu'est-ce qu'ils voient? Aïe, aïe, aïe. Ils voient une caravane de polythéistes qui arrivent en ihram, qui vont faire l'umra. Et eux, les portes sont grandes ouvertes, ils entrent à Makkah, ils vont faire l'umra. Quand ils voient ça, ils disent, ils se sont dit tout de suite, on va les empêcher d'entrer à Makka. Nous, on n'a pas gagné. Mais eux aussi, ils gagneront pas. Nous, on est de le haq. Eux, ils sont de le bâtil. Ce sont des adorateurs de pierre. Comme on a fait zulm avec nous, ben, on va se venger. C'est-à-dire, touche un ennemi qui a un point commun avec celui qui t'a fait du mal, parce qu'il n'y a pas la même croyance, c'est la même croyance, ou il n'a pas la même croyance que toi, mais il ne t'a rien fait. Mais frappe-le. C'est le même scénario qu'on voit dans tous les attentats. Tu vas faire exploser une bombe, pas tu vas, ils font exploser une bombe à New York, à Bruxelles, à Paris, parce qu'en Syrie, parce que t'as le droit, il y a du mal. Et ce verset du Coran, j'ai lu ça d'Ibn Kathir, quelqu'un, je me dis que subhanallah, si les gens qui se disent pieux revenaient vers le Coran, on condamnerait unanimement par les versets du Coran tout ce qui se fait. Là, Allah Azza wa Jal révèle le verset, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstruer la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. Si tu empêches ces polythéistes d'entrer à Makka, tu as transgressé et Allah n'aime pas les transgresseurs. Toi, t'as pas pu rentrer. Accepte. C'est comme ça. Mais celui qui va entrer là, c'est pas lui qui t'a expulsé. Il t'a rien fait, lui. Tu te venges, il est innocent. Tu te venges, innocent. Coran descend spécialement pour recadrer l'intention que les sahaba avaient d'empêcher la caravane des mouchriquines d'entrer à Makka. Vous voyez comment est-ce que notre dîn, depuis les premiers jours de la révélation, nous donne les bases de la relation humaine, proche, extérieure et avec les gens de toute confession. Et sixième et dernier point, la recherche de la paix, et ça c'est partout dans le Ahd Madani. Le prophète arrive à Madina, pacte de non-agression avec les Yahoud de Qaynuqa, Qurayza et Banu Nadir. On vit en paix. Pour le sol de Hudaybiyah, qu'est-ce qui a intéressé le prophète sallam? Le pacte proposait 10 années de paix. Et il s'est dit que 10 ans, il n'y a pas de guerre. On en rêve. Le Sahaba a pas dit que c'était injuste, il demande telle chose. 10 ans, il n'y a pas de guerre. Aham Shay, c'était ça que le prophète voulait. Notre dîn, c'est une religion qui nous permet de nous poser spirituellement, physiquement, psychologiquement, de s'installer dans le temps, à travers l'époque et avec toutes les cultures, de créer un pont universel avec tout le monde parce qu'il est porteur de toutes ces valeurs. À nous maintenant de faire quoi? Là, on va juste citer, comme on a dit en arabe, ou sous l'aqlam, des points, des titres. Allons vers le Coran, vers la Sunna, étudions la religion et on comprendra toute la beauté de notre religion. Notre religion, c'est pas uniquement la religion du masjid, du musalla, c'est une religion qui est ouverte aux autres. Et si on adoptait le comportement qu'Allah nous demande, le prophète l'a mis en application, et comme chaque musulman al-Madina, on rayonnerait à travers le monde, on deviendrait des asbab de guider qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte. On a un petit peu dépassé le temps, de quelques 40 minutes à peu près. Je vous présente mes excuses, mais j'espère qu'Inch'Allah, ces quelques paroles trouveront, Inch'Allah, une place de nos cœurs et éveilleront des consciences et nous permettront, Inch'Allah, de comprendre ces réalités et d'être de défendre notre religion, de défendre ses valeurs en l'apprenant, en le mettant en pratique pour montrer tout l'amour qui se dégage de notre religion. توفيق الله بالله سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.